Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Ouais, le journal, c'est avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La mort d'un adolescent de 12 ans à Rennes retrouvé sans vie à proximité d'un fleuve, un linge serré autour de son cou. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Nous serons sur place dans ce journal. Si vous avez eu chaud hier, ce sera pire aujourd'hui. De nouveaux records sont attendus. 18 départements sont en vigilance jaune. C'est une première pour un mois de mai. Et dans ce contexte, attention au risque de noyade après un week-end particulièrement meurtrier. Et l'Argentine qui retient son souffle après la blessure de Lionel Messi cette nuit à 3 semaines de la Coupe du Monde.
Le choc ce matin à Rennes.
Là où un adolescent de 12 ans a été retrouvé mort hier au bord de la Vilaine avec autour de son cou une serviette de bain mouillée. À Rennes ce matin en direct, Martin Lange, correspondant à RMC en Bretagne. Vous vous trouvez, Martin, à proximité des lieux où le corps de ce jeune garçon a été retrouvé et le mystère plane toujours ce matin sur cette sombre affaire.
Oui Thibault, c'est un pêcheur qui a donné l'alerte hier un peu avant 17h après avoir entendu les cris d'un enfant. Sur place, les secours découvrent un adolescent de 12 ans, une serviette de bain mouillée nouée très serrée autour de son cou. Il tente de le réanimer sans succès. Les circonstances de son décès restent à éclaircir, mais cette serviette intrigue les enquêteurs. Est-ce un jeu qui a mal tourné, un acte volontaire? Selon le procureur de Rennes qui s'est rendu sur place, l'intervention d'un tiers fait partie des hypothèses. D'ailleurs, durant toute la soirée, des policiers en nombre étaient présents sur place pour faire des constatations, dénicher des témoins. Une grande tente avait d'ailleurs été installée pour accueillir la police scientifique sur les bords de la Vilaine, là où le corps de l'adolescent a été découvert près d'une promenade très empruntée par les Rennais à quelques minutes seulement du centre-ville. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Elle a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de Rennes.
Martin Lange, en direct de Rennes ce matin pour RMC.
Nouveau coup de chaud en perspective aujourd'hui.
Conséquence de ce dôme de chaleur en provenance du Maroc. Géraldine vous en parlait il y a quelques minutes. On devrait battre des records encore après ceux d'hier. Plus de 30 degrés en Normandie, en Charente-Maritime et aussi en Bretagne. Historique aussi, c'est 18 départements en Paris, sa petite couronne et le Nord-Ouest en vigilance jaune. À la canicule ce matin, basé sur des seuils d'été, c'est du jamais vu en cette période de l'année. On attend 33 degrés aujourd'hui du côté de Brest. Et sur la pointe bretonne, Inès Zegloul, on n'est pas forcément préparé à ce genre de coup de chaud.
En quittant son appartement en fin de journée, Juliette, 88 ans, a suffoqué.
Comme un sèche-cheveux, la figure, quoi. L'air chaud.
Assise sur un banc, Josette, d'un an sa cadette, cherche désespérément un peu d'ombre.
Ah, il fait trop chaud. On n'est pas habitué déjà en Bretagne à voir cette chaleur-là. Enfin, on n'a jamais aussi chaud au mois de mai. Quand j'étais plus jeune, ça allait, mais plus maintenant.
Dans le parc, devant la gare, les places abritées du soleil sont prisées. Marie en a trouvé une sous un arbre pour faire goûter sa fille de quelques mois.
Chez nous, il fait encore plus chaud. On essaye de se refroidir comme on peut. On se met à l'ombre, on met des chapeaux, on sort un peu plus tard. Là, on a attendu 16h30. On fait au mieux pour rester au frais.
En quelques jours, les températures ont quasiment doublé dans une ville pas toujours adaptée pour ces conditions. Océane est étudiante.
C'est arrivé d'un coup, on s'y attendait pas et là il fait vraiment chaud. On dit que c'est un peu le village gaulois où il fait toujours chaud ailleurs mais pas à Brest. C'est pas forcément adapté. Enfin, c'est beaucoup de béton et ça absorbe la chaleur.
Et ça devrait durer. Selon Météo France, le mercure va dépasser les 30 degrés jusqu'à mercredi inclus.
Et pour se rafraîchir, vous êtes nombreux à chercher des points d'eau. Attention, la vigilance est de mise. Après plusieurs noyades mortelles ce week-end, 2 nageurs ont été tués en Gironde, emportés par des baïnes. Dans le Bas-Rhin, une femme s'est noyée dans un étang. Hier, une autre personne est morte dans les eaux du Loir, près d'Angers. Samedi, c'est un jeune garçon de 17 ans qui s'est noyé en Seine-et-Marne, aspiré, Solène Leroux, par le courant.
3 jeunes se baignent vers 14h ce samedi près du barrage de Boissy-la-Bertrand en Seine-et-Marne. Le maire Olivier Delmer.
Un des jeunes s'est approché trop près du barrage et a été emmené, aspiré par ce qu'on appelle la lame de fond en aval du barrage.
Le corps de l'adolescent de 17 ans est récupéré quelques heures plus tard par les pompiers. Dans cette zone, des panneaux, des barrières interdisent clairement la baignade car même si cette commune est endeuillée pour la première fois, l'endroit est bien connu, notamment des jeunes lors des fortes chaleurs. Olivier Delmer appelle à la vigilance.
Même si s'approcher de l'eau, ça fait du bien parce que ça rafraîchit, c'est vraiment la prudence et ne pas faire des gestes inconsidérés. L'accident est tellement vite arrivé.
L'élu va échanger à nouveau avec Voies Navigables de France qui gère aussi cette zone afin de la sécuriser davantage. Voies Navigables de France qui a de nouveau averti la semaine dernière de la dangerosité des baignades près des écluses, des barrages et dans les cours d'eau non aménagés alors que le nombre de noyades a fortement augmenté l'an passé en France.
Et par cette chaleur, prudence, si vous faites de l'exercice en extérieur, le ministère des Sports appelle à la vigilance après la mort d'un coureur victime d'un malaise cardiaque sur une course à Paris, l'interruption d'un autre événement sportif dans le Val-de-Marne, durant lequel une dizaine de coureurs ont été pris de malaise et hospitalisés. Faut-il interdire le vapotage, là où il est interdit de fumer une cigarette, sur les plages, dans les parcs, les abribus ou encore les écoles? C'est ce que réclament 7 Français sur 10 selon un sondage OpinionWay pour la Ligue contre le cancer, qu'RMC vous dévoile en exclusivité ce matin.
Alors, vous vapotez, vous, dites-le nous au 32-16 ce matin, nouvelle possibilité de réduire le terrain où vous pourriez vapoter, les parcs, les jardins, les espaces publics. Et vous êtes, si vous n'êtes pas vapoteur, est-ce que vous êtes incommodé par la vape? Là aussi, vous avez la parole au 32-16 ce matin, n'hésitez pas. Il est 7h05, la baisse des cours du pétrole.
Sous les 100 dollars, avec en toile de fond l'espoir d'un accord de paix entre Américains et Iraniens, toujours possible ce lundi. C'est ce que dit ce matin Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, se montrait déjà optimiste hier, refroidi pourtant par Donald Trump, qui appelait ses négociateurs à ne pas se précipiter. Le temps joue en notre faveur, dit Donald Trump, qui réclame un accord sérieux, Marion Gauthier.
Dans un premier temps, prolonger le cessez-le-feu, dégeler certains actifs iraniens dans des banques étrangères et pour l'agence de presse iranienne Fars, le protocole prévoirait aussi de lever des sanctions sur le pétrole pour permettre à l'Iran d'exporter à nouveau. Souplesse temporaire pendant que les négociations continueraient sur deux points principaux. Le détroit d'Hormuz, d'abord. Sa réouverture fait partie de l'accord, affirme le président américain, quand des sources iraniennes précisent qu'il resterait contrôlé par l'Iran. Le nucléaire, ensuite, pour Trump, pas d'accord de paix sans promesse de démantèlement du programme nucléaire iranien et sans transfert du stock d'uranium enrichi. C'est en tout cas ce qu'il a promis à Israël. L'accord potentiel Iran-États-Unis acterait surtout de futures négociations dans un délai de 60 jours.
Nouvelle journée Roland-Garros, peut-être la dernière de la carrière de Gaël Monfils face à Hugo Gaston, deux des 9 Français attendus porte d'Auteuil ce lundi, à suivre sur RMC et sur la radio digitale. 100% terre battue hier, Quentin Alice et Valentin Royer se sont qualifiés pour le tour suivant sur les 12 tricolores qui étaient engagés.
Petite alerte cette nuit pour Lionel Messi, l'Argentin de l'Inter Miami est sorti, semble-t-il, blessé.
Virginie Fulpin nous rejoint ce matin. On ne connaît pas à cette heure la nature de la blessure de Lionel Messi, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'attaquant à 3 semaines de la Coupe du Monde.
Et toute l'Argentine retient son souffle. Hein. Chaque geste est décortiqué quand on est aussi près d'une Coupe du Monde. Encore plus quand il s'agit de Lionel Messi, l'homme aux 8 ballons d'or. C'est lui qui a demandé à sortir prématurément du terrain cette nuit à la 73e minute du match entre son club de l'Inter Miami et le Philadelphia Union. L'attaquant se tenait la jambe gauche avant de demander à être remplacé. Il a reçu des soins au bord de la pelouse. Il a eu une conversation avec son entraîneur. Mais plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux le montrent ensuite marcher normalement dans le tunnel vers les vestiaires. Alors difficile de se faire une idée précise de ce dont souffre Lionel Messi avant d'avoir les conclusions des médecins. Le plus probable, c'est qu'il ait préféré être prudent et sortir pour éviter tout problème sérieux. Mais Lionel Messi aura 39 ans dans un mois. Même une petite blessure peut être problématique pour une Coupe du Monde. En plus, l'Argentine commence la compétition le 17 juin par un match assez compliqué face à l'Algérie.
Et la Coupe du Monde, elle sera à vivre bien évidemment sur RMC. En NBA, avec 33 points marqués, Victor Wembanyama permet aux San Antonio Spurs d'égaliser de partout en finale de conférence Ouest face à Oklahoma City. Et puis à 5 jours de la finale de la Ligue des Champions entre Paris et Arsenal, il n'y aura pas de parade sur les Champs-Élysées en cas de sacre. Pour le PSG, des raisons de sécurité sont évoquées. Une célébration sur le Champ de Mars face à la Tour Eiffel serait dans les tuyaux, selon les informations d'RMC Sport.
Merci beaucoup Thibaut Texier. C'était le journal de 7h. On va accueillir Thierry et Anthony ce matin au sujet... Eh bien, du temps qu'il fait, de la chaleur qui s'abat sur tout le territoire. Thierry est en ligne avec nous d'abord. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors Thierry, je vous êtes en Charente-Maritime. Oui. La Charente-Maritime qui ne fait pas partie des départements en vigilance. Cela dit, j'ajouterai une vigilance particulière pour vous. Thierry, il est couvreur.
Oui.
Donc vous êtes sur les toits toute la journée.
Oui. On n'est pas en vigilance, mais il y a quand même fait 36 hier.
Oui.
33 vendredi, ça commence à cogner.
Donc vous, là, travaillez, vous travaillez aujourd'hui?
Oui.
Ouais.
Oui, je travaille. Faut bien le faire un jour ou l'autre. Donc mon patron a choisi ce jour-là. Tant pis.
Est-ce que Thierry, est-ce que c'est adapté? Est-ce que vous commencez plus tôt? Est-ce que vous faites plus de pauses?
Bah oui, si on peut commencer plus tôt, parce que bon, bah, y a des gens qui aiment pas qu'on débarque à 6h du matin, mais on commence plus tôt. En ayant la chance de travailler dehors, ben, on prend le tuyau d'arrosage du client ou le robinet, puis ben, on mouille le t-shirt, puis on le renfile mouillé. Donc ça fait une sensation de fraîcheur qui dure une demi-heure. Donc on descend régulièrement pour faire ça.
Vous trempez le t-shirt et ça tient une demi-heure, quoi.
Ah oui, à peu près. Après, il est tout sec, mais on recommence.
Bon, Thierry, faites attention, hein.
Oui, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de galère au niveau des. Je pense aux collègues, etc. Vous n'avez pas vu des. Parce que parfois, on prend un coup de chaud aussi. Hein. On est sur les toits, sur les toits.
Bah, moi, personnellement, je sais que j'ai des coliques tous les jours quand il fait trop chaud comme ça. Même si je bois, même si. Mais bon, on fait attention. Les clients sont sympas. Ils nous offrent à boire. Non. Dans le bâtiment, je pense que les gens.
Je salue tous vos collègues à travers vous, Thierry, tous vos collègues du bâtiment qui sont à l'écoute d'RMC ce matin, particulièrement ceux qui vont bosser. Et puis si c'est pas aujourd'hui, lundi de Pentecôte, le reste de la semaine, c'est pas beaucoup mieux. Merci Thierry, on va accueillir Anthony qui est dans les Alpes-Maritimes. Alors comme disait Victor tout à l'heure, au bord de la mer, il y a un peu d'air quand même.
Eh oui.
Anthony, vous réjouissez ce matin. Vous avez combien ? Bonjour Anthony.
Bonjour.
Vous avez combien ce matin ?
Ouais, je sais pas, il doit faire 21, là, on est bien, hein.
Bah, 21, ça va, quand même.
On est frais, je suis face au soleil, moi.
Ça doit vous faire bizarre de voir le reste de la France. Comment ?
Je suis au bord de la mer, je pense que vous entendez la mer.
Anthony, ça doit vous faire bizarre de voir le reste de la France qui a très chaud et vous, dans les Alpes-Maritimes, d'être un peu plus au frais pour une fois.
Non, pas du tout. Moi, j'ai l'habitude d'être au chaud. Ni au frais, ni au chaud, c'est pareil pour moi,
hein. Écoutez, Anthony, vous êtes aide à domicile, vous travaillez aujourd'hui ?
Non, je suis en repos.
Donc repos, plage, quoi.
Plage, ouais, vite fait le matin, parce qu'après, j'arrête, moi.
Ouais.
Il fait trop tôt, je rentre à la maison et je reviens moi. Ouais,
quand même. Ah, mais Anthony, vous avez bien raison, et c'est comme ça l'occasion aussi de rappeler à tous nos auditeurs ce que l'on connaît en ce moment. Pardon, Anthony ?
Faut juste se protéger à Nice, on a l'habitude, mais voilà, tranquille.
Non, mais bien sûr, vous avez plus l'habitude, c'est sûr, que les départements du Nord-Ouest qui sont en vigilance, et encore une fois, des vigilances jaunes qui sont basées sur les stats de l'été. Géraldine va tout nous expliquer, mais on est vraiment dans un phénomène exceptionnel. Donc si vous pouvez, mettez-vous au frais, bien sûr, prenez soin de vous. On est là aussi pour vous accompagner, vous restez tranquillement à la maison avec RMC ou RMC Story, et tout se passera bien si vous avez la chance d'avoir un logement correctement isolé. Encore faut-il que ce soit correctement isolé. 7h12 sur RMC. Un chiffre exclusif, RMC ce matin. 7 Français sur 10 qui sont favorables à une interdiction du vapotage dans les espaces sans tabac, les plages, les arrêts de bus, les abords des écoles. Est-ce que vous êtes incommodé par le vapotage des autres ? Vous vapotez vous-même ? Est-ce que vous craignez de nouvelles interdictions ? On vous attend au 32-16. Docteur Emmanuel Ricard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la prévention pour la Ligue contre le cancer. Il faut invisibiliser la vape comme on l'a fait pour le tabac. C'est votre parti pris dans une minute sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h15 sur RMC et RMC Story. Faut-il bannir le vapotage au même titre que la cigarette classique ? Bonjour Emmanuel Ricard.
Bonjour.
Vous êtes médecin en santé publique, directeur de la prévention pour la Ligue contre le cancer. Et c'est votre chiffre qu'on dévoile en exclusivité ce matin sur RMC. 7 Français sur 10 favorables à l'interdiction de la vape dans les espaces aujourd'hui sans tabac. La plage, les abris bus, les abords des écoles. Votre parti pris ce matin, il faut invisibiliser le vapotage. La clope électronique, on l'a trop banalisée pour qu'il faille réduire sa visibilité aujourd'hui ?
Bah oui, puisque on a en fait deux types de publics. On a les fumeurs, pour qui la cigarette électronique peut être un moyen pour soit substituer la nicotine sans les effets de la cigarette, soit faire le sevrage. Par contre, on a une population qui est la population jeune, qui de plus en plus consomment. Les derniers chiffres sont 9,5% fume ou vapote. La crainte qu'on a, c'est qu'on soit en retard d'une guerre et que ce qu'on a gagné sur la cigarette classique, on est en train de la perdre sur le vapotage.
Vapotage, on parle de gamins qui n'étaient pas des fumeurs de cigarettes auparavant.
Voilà.
C'est ça que vous décrivez. Pour vous, l'ANSES est venu le dire, la cigarette électronique n'est pas si inoffensive. Mais pour vous, fumer des cigarettes et vapoter, c'est pareil ?
C'est pas pareil. C'est pour ça que je dis, en réduction des dommages pour des fumeurs, ça peut être intéressant, en attendant de s'arrêter complètement. Par contre, commencer pour des jeunes qui n'ont jamais utilisé ces produits, on a des risques de cancer, on a des risques respiratoires, on a des risques cardiovasculaires. Et le problème aujourd'hui, et c'est ce que démontre l'ANSES, c'est qu'on peut pas dire que c'est anodin.
Alors, on a évidemment beaucoup d'appels ce matin sur la chaleur et le temps qu'il fait, mais on a aussi pas mal de messages sur le WhatsApp RMC sur cette question qui fait débat, la cigarette électronique. Est-ce qu'elle vous incommode ? Dites-le nous au 3216. On a un vapoteur, je crois, dans vos messages.
On a Emmanuel, tout à fait ancien fumeur, et qui nous dit: quand j'étais fumeur, j'étais déjà pour l'augmentation du prix des cigarettes, j'étais aussi pour les interdits. Donc c'est pas un ancien fumeur de mauvaise volonté, je dirais. Il a arrêté grâce à la vapoteuse, nous dit-il, et il nous dit: cette interdiction pour la vapoteuse, cette éventuelle interdiction, j'ai peur, et je pense que beaucoup d'autres qui voudront faire l'effort d'arrêter auront du mal. Je pense que trop d'interdictions, ce serait contre-productif.
Et on avait parlé aussi de cette association Contrefeu qui réclame le paquet neutre pour les produits de vapotage, l'interdiction de la vente en ligne. Avec toutes ces mesures qu'on est en train d'imaginer, vous ne craignez pas qu'on décourage ceux qui seraient en train ou qui voudraient arrêter de fumer la cigarette classique ?
La question qui est évoquée, c'est la question de la liberté. On sait qu'aujourd'hui, l'industrie du tabac, elle cherche à capter à nouveau de l'ordre de 200 000 nouveaux consommateurs, et que le piège, c'est la vapoteuse, dans la mesure où on la présente comme un outil anodin, comme quelque chose de fun, quelque chose avec ses arômes au contraire.
Presque trop glamour.
Trop glamour, voilà. Glamour. Et on voit aujourd'hui, avec ce qui se passe avec les influenceurs, au moment de on a une vraie glamourisation qui est faite pour capter ce nouveau public.
Alors, cela dit, vous parliez de l'industrie. Il y a une question qui se pose aussi sur l'impact de la culture et du cinéma en particulier. Alors ça, c'est des débats qu'on a depuis un demi-siècle, hein, sur la clope au cinéma, etc. Mais on observe un retour en force de la cigarette classique, cette fois, docteur, dans les films, les séries, sur les réseaux, la clope au bec des stars. La moitié des 15-25 ans disent que ça leur donne envie de fumer. Tout ça, c'est du lobbying, c'est du travail de l'industrie du tabac.
Tout ça, c'est des vraies stratégies de marketing pour repositionner les produits avec du placement de produits avec ces influenceurs, en essayant de contourner la loi E20, puisqu'aujourd'hui, il est interdit de faire de la publicité pour les produits du tabac.
Oui, mais une star qui pose avec une clope sur Instagram, c'est pas la même chose.
Ben, une star, si c'est sa propre consommation, oui. Sauf que là, c'est des gens qu'on paye pour faire de la même façon qu'on va vous payer pour des produits de beauté, pour des bijoux ou pour de la voiture.
Bien sûr. J'ai une dernière question qui est un peu déconnectée, mais je ne sais pas si vous avez suivi ça, parce qu'on parle de la nicotine que l'on fume ou que l'on vaporise, mais il y a aussi l'interdiction française des sachets de nicotine, les snus, sachets à mâchouiller, à poser sur la gencive, qui sont utilisés depuis des siècles, c'est traditionnel en Scandinavie. Et il y a le ministre suédois du commerce qui dit: c'est comme si nous on vous interdisait la baguette ou le vin. La Suède est furieuse. Que répond le médecin au ministre du commerce suédois?
Ben, c'est toujours le même problème. Le snus, il y a deux types de snus. Il y a le tabac à chiquer.
Oui, mais ça, je crois que c'est déjà fini.
On sait que ça donne des cancers de la bouche, des cancers de la langue, des cancers des gencives. Par contre, les sachets de nicotine, on sait que ça participe à la dépendance de la même façon. Et je rappellerai que le précédent directeur de Sanko, donc la direction santé au niveau de la Commission européenne, est tombé parce que les Suédois avaient essayé de placer le snus et avaient dit qu'il était payé. Enfin, un de ses proches, son cousin, était payé. Donc tout ça, c'est des choses organisées.
Le snus, la cigarette dans le cinéma, etc.
C'est les mêmes produits.
C'est une industrie qui résiste.
Et c'est une question de provoquer de la dépendance.
Il faut arrêter de banaliser la cigarette électronique. Il faut l'invisibiliser, dites-vous, docteur Emmanuel Ricard. Merci beaucoup.
Merci.
Directeur de la prévention pour la Ligue contre le cancer. J'attends les réactions de nos auditeurs nombreux, nombreuses au 3216 et sur le WhatsApp RMC, le 06 12 424 424. Il est 7h21. Et dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Arthur, les descendants du dictateur italien Benito Mussolini n'ont pas du tout honte de leur nom de famille.
Elle, en télé-réalité, football politique en Italie, les Mussolini sont partout. Il y en a même un qui a pris le nom de Jules César.
Et puis à 8h30, dans le face-à-face, Alain Bauer, professeur émérite de criminologie, qui répondra aux questions de Marie Chantré. Dans 5 minutes, Arnaud Demange vient pirater l'interview. Puis à 8h50, vous le savez, face à Canteloup. Il n'y a pas de jour férié pour Nicolas. Face à Canteloup à 8h50 sur RMC. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans moins de 55 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité avec vous, Arthur Chevalier. Rebonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
En Italie, c'est la petite fille de l'ancien dictateur Benito Mussolini qui vient de remporter l'émission de télé-réalité Grande Fratello, Big Brother en italien. Donc c'est Love Story en fait.
Oui, et elle s'appelle Alessandra Mussolini, elle a 63 ans, elle a remporté cette télé-réalité grâce au vote du public, hein, donc elle est populaire. Avant de faire de la télé, elle a eu mille vies, hein, cette Mussolini, elle a été chanteuse, mannequin. C'est aussi une femme connue pour son comportement provocateur et clairement outrancier, mais surtout, ce dont elle est la plus fière, c'est d'être la petite fille de Benito Mussolini. Benito Mussolini, évidemment, c'est le dictateur fasciste qui a régné sur l'Italie de 1922 à 1945, donc plus de 20 ans quand même, et qui est mort fusillé à la fin de la Seconde Guerre mondiale après avoir été l'allié d'Adolf Hitler.
Alors, malgré son nom, Alessandra Mussolini n'a pas hésité à se lancer elle-même en politique.
C'est mieux que ça, Mathieu, puisqu'en fait, ça l'a beaucoup servi. Hein. Elle se lance dans les années 1990. Alors, son engagement avait le mérite d'être clair dès le début, puisqu'elle milite tout de suite dans un parti néo-fasciste qui s'appelait le Mouvement Social Italien. Alors, elle va ensuite se rapprocher de Silvio Berlusconi. Et sa carrière sera plutôt honorable, puisqu'elle a quand même été députée, sénatrice et députée européenne.
Alors, elle faisait aussi beaucoup parler d'elle avec des esclandres médiatiques.
Oui, Mathieu, ça a été très très loin. En 2006, elle participe à un débat sur la RAI. La RAI, c'est une des grandes chaînes de télé italienne. Et face à elle, en plateau, c'est un candidat de gauche et transgenre. Et alors qu'on reprochait à Alessandra Mussolini d'être fasciste, elle lâche la phrase suivante, je vous cite la phrase... Il vaut mieux être fasciste qu'homosexuel. Ah oui. L'indignation avait été totale.
Ah oui, bon. Et Alessandra Mussolini a aussi un fils qui lui est très médiatisé aussi.
Et oui, son fils c'est Romano Mussolini, qui est l'arrière-petit-fils de Benito Mussolini. Hein. Et alors lui, il est joueur de foot, mais comme sa maman, il est très fier de porter le nom de Mussolini. C'est d'ailleurs ce nom qui est floqué sur son maillot. Actuellement, il est en prêt au club de Cremonese, mais son club de rattachement, c'est la Lazio de Rome. Ah oui. Et la Lazio de Rome, évidemment, on sait tous que historiquement, c'est un club connu pour sa proximité avec le fascisme depuis les années 70, avec des groupuscules de supporters d'extrême droite complètement fanatisés.
Il y a d'autres membres comme ça, c'est cette famille-là. Il y a d'autres membres de la famille Mussolini qui sont engagés
c'est,
comme
c'est
ça en Italie.
C'est les Kardashian fascistes, bien sûr. Rachele Mussolini, autre petite fille du dictateur, a été élue conseillère municipale de la ville de Rome en 2021, avec d'ailleurs une très grosse participation, sous les couleurs du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, qui au début était aussi un parti néo-fasciste, hein, quand même, rappelons-le. Et c'est pas fini, il y a un autre Mussolini qui a essayé de s'engager aux politiques. Et alors attention, il ne s'appelle pas n'importe comment, son nom complet, c'est Caio Giulio Cesare Mussolini. Donc en fait, c'est Caius Julius César Mussolini. Donc oui, en plus de Mussolini, il porte le nom de Jules César. Cet autre arrière-petit-fils de Mussolini s'est présenté en 2019 aux élections européennes, sur une liste d'extrême droite, évidemment lui aussi, mais sans être élu. Bref, force est de constater que le nom Mussolini a encore plutôt la cote en Italie, ce qui n'est quand même pas anodin.
Non, c'est pas anodin. Merci beaucoup Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Une chronique qu'on retrouve et qu'on partage via l'application RMC. Il est 7h26.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Et bon, bonjour Arnaud Demanche.
Bonjour Mathieu Béliard.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est Alain Bauer.
Et oui, le Thomas Magnum de la politique, il arrive avec sa belle moustache comme Victor Porcher. Sauf que lui, il arrive en Ferrari qu'il a pu s'acheter grâce au droit d'auteur des 150 bouquins qu'il écrit chaque année à la Bauer. C'est l'homme qui sait tout, c'est lui qui a écrit Wikipédia, c'est lui qui réactualise Google. J'ai demandé à ChatGPT de me résumer la crise iranienne, il m'a répondu « Eh oh, il n'y a pas marqué Alain Bauer ici ». D'ailleurs, Alain Bauer n'utilise jamais l'intelligence artificielle. Non. Ça le ralentit, Mathieu. On va parler de l'Iran. Selon Donald Trump, un accord se rapproche grandement. Que de chemin parcouru, hein. Merci, Donald. Parce que rendez-vous compte, avant cette guerre, le régime des Mollahs terrorisait sa population et l'Iran avait de l'uranium enrichi pour fabriquer une bombe et peut-être détruire Israël. Et ben maintenant, le régime des Mollahs terrorise sa population et l'Iran a de l'uranium enrichi pour peut-être fabriquer une bombe et peut-être détruire Israël. Voilà. Sauf qu'en cas d'accord, attention, le détroit d'Ormuz sera en vert. Et ça, c'est une avancée parce qu'avant la guerre, il était ouvert. Alors, il y a trois jours, Trump voulait écrabouiller l'Iran. Après, il a dit qu'il allait signer un super deal. Maintenant, il est plus sûr de signer. Ça doit être tellement relou d'habiter avec lui. Il dit tout et son contraire en permanence. Dans l'intimité, ça doit être un enfer pour Melania. Il doit venir la voir. Oh, Melania, je t'aime. Non, je te déteste. Very bad person, very bad. Faisons l'amour. Non, va faire la vaisselle. T'es super belle. T'es horrible, tu ressembles à rien. Le zinzin. Et justement, grâce à Alain Bauer, tout, vous saurez tout sur le zinzin. Alors, j'ai zappé aussi sur CNews pour en savoir plus. Et ces derniers mois, vous avez vu, il y a une nouvelle chroniqueuse qui monte. Xenia Fedorova, l'ancienne directrice de Russia Today, le média du Kremlin, c'est-à-dire une des pièces maîtresses de la propagande russe, à son rond de serviette chez Pascal Pro. Xenia Fedorova, bonjour. Alors Xenia, que pensez-vous de cet accord Iran-États-Unis?
Allô? Oui, excusez-moi Vladimir, je suis avec Pascal Pro qui me pose une question. Non, c'est un journaliste. Non, il ne faut pas le tuer, il est super. C'est un peu le Francis Lalanne de l'information. Pascal, vous disiez?
Oui, l'accord Iran-États-Unis, Xenia.
Ah oui! Eh bien, je pense que le imposteur de Kiev, le clown nazi ukrainien, devrait rendre les armes. Sinon, nous continuerons à nous défendre pacifiquement en envoyant des missiles de croisière sur les civils. Vous avez vu ce qu'il nous force à faire?
Mais elle a raison, elle a raison! Mais donc, sur l'Iran, Xenia, je vous ai posé une question.
Tu me poses pas de questions.
Mais évidemment, mais vous avez raison, tout à fait.
C'est pour ça qu'il a sa carte de presse, Pascal. Voilà, qu'on soit d'accord avec Vincent Bolloré ou au contraire d'accord avec Poutine, il ne lâche rien. Rendez-vous à 8h30 avec Alain Bauer. On fait comme ça?
On fait comme ça, merci beaucoup Arnaud. On se retrouve tout à l'heure à 8h15. À tout de suite sur RMC, RMC Story. Il est 7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal avec Thomas Becker. Bonjour Thomas.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. La France sous un dôme de chaleur. Une centaine de records de température sont tombés hier. Gros risque de noyade. Nous serons en Gironde où deux baigneurs sont morts emportés par le courant. C'est un témoignage RMC ce matin. Un proche du beau-père des deux enfants abandonnés au Portugal. Il l'a côtoyé et dresse un portrait troublant. Vous l'entendrez. Direction Roland-Garros. À la fin de ce journal, les fans n'attendent qu'une seule chose. Gaël Monfils sur le central ce soir. Ce sera peut-être son dernier match.
C'est une première pour un mois de mai. 18 départements placés en vigilance jaune canicule par Météo France.
Oui, l'ouest du pays est particulièrement touché. La vague de chaleur va se poursuivre cette semaine. Alors forcément, les baigneurs sont nombreux et les premiers drames ont eu lieu hier. Pierre Bourgès, vous êtes en direct avec nous ce matin. Vous êtes notre correspondant en Gironde. Gironde où des baigneurs ont été emportés par des baïnes dans ce département, Pierre.
Exactement. Au total, 31 baigneurs se sont fait emporter par les courants de baïnes selon la préfecture de la Gironde et deux sont morts noyés au Cap Ferré et à Lacanau. Les baïnes, on le rappelle, ce sont ces petits bassins qui se forment entre la plage et un banc de sable qui se jette dans l'océan. L'eau y est souvent d'apparence plus calme et plus chaude, mais à marée basse, quand le bassin se vide, eh bien, cela crée un courant extrêmement fort qui vous emporte vers le large. C'est à ce moment que l'on peut paniquer, s'épuiser et risquer de se noyer. Depuis jeudi, pourtant, la préfecture du département avait déclenché l'alerte aux baïnes pour rappeler la dangerosité de ce phénomène. Des actions de sensibilisation sur les plages devraient donc se multiplier dès aujourd'hui. On le rappelle, la règle d'or sur la côte atlantique, c'est de se baigner dans les zones surveillées entre les drapeaux jaunes et rouges. Et alors, si jamais vous êtes pris dans une baïne, on le rappelle, ne luttez pas contre le courant pour tenter de revenir vers la plage. Vous risquez de vous épuiser. Gardez votre calme et laissez-vous emporter au large. Oui, c'est contre-intuitif, mais cela vous fera sortir de la baïne. Ce sera alors plus facile à ce moment-là de nager vers le sable.
Voilà, les bons conseils de Pierre Bourgès, correspondant de RMC dans le Sud-Ouest.
Alors, la sidération et le mystère à Rennes à présent, après la découverte du corps d'un garçon de 12 ans, une serviette de bain mouillée serrée autour de son cou.
Oui, il a été retrouvé sur les rives de la Vilaine, sous un pont dans le quartier de Saint-Hélier. Le procureur de Rennes s'est rendu sur les lieux hier soir. Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans est ouverte par le parquet. Aucune hypothèse n'est écartée à ce stade, y compris l'intervention d'un tiers. Nous serons en direct de Rennes dans le journal de 8h.
Il est 7h33. Sur RMC, c'est un témoignage RMC ce matin. Un proche du beau-père des deux enfants abandonnés au Portugal dresse un portrait troublant.
Oui, il est en détention provisoire depuis samedi avec la mère des enfants. En plus des accusations de mise en danger et d'abandon qui visent le couple, l'homme est soupçonné de coups et blessures aggravées. Caroline Renaud, vous avez échangé avec un des proches de ce beau-père qui peine à réaliser.
En voyant son nom dans la presse, Antoine n'y a pas cru.
Il avait toujours eu des délires, mais ça a souvent été des paroles. Là, ce qui est un petit peu troublant, c'est que là, il y a eu un passage à l'acte sur des enfants.
Il témoigne de manière anonyme par crainte de représailles. Il a coupé les ponts depuis plusieurs années avec cet homme, devenu trop complotiste, dit-il.
Il a eu des antécédents psychiatriques. Il me disait que j'étais une représentation luciférienne, que lui, il était immortel, qu'il rajeunissait. Là, il doit être dans un délire complètement paranoïaque, de possession.
Des théories que l'on retrouve en nombre célèbre sur ses réseaux sociaux. Cet ancien gendarme a aussi été condamné en 2010 à 9 mois de prison pour harcèlement et violence conjugale sur son ex-compagne.
Quand il a été condamné pour coups et blessures, il avait pris la fuite, il est parti en cavale en Amérique du Sud, ne le laissez jamais sortir. J'espère qu'ils vont passer leur vie en prison, ces gens.
Et quand il évoque les deux enfants abandonnés, les yeux bandés en pleine forêt,
dans leur tête, ce qu'ils doivent être en train de vivre,
la voix d'Antoine s'étrangle.
Je pense qu'ils réalisent pas ce qui se passe, mais ils vont grandir avec le fait de réaliser petit à petit ce qu'ils ont vécu. C'est affreux.
J'espère qu'ils seront placés dans une bonne famille, conclut-il.
Témoignage RMC au micro de Caroline Renaud.
Objectif 2027. Quand Macron 2022 se transforme en Attal président.
Oui, ça se passe sur les réseaux sociaux. Gabriel Attal, désormais officiellement candidat à la présidentielle, a soigneusement récupéré les comptes Instagram et Twitter avec lesquels Emmanuel Macron avait fait campagne. Cyprien Pézeri, l'intérêt, c'est qu'au lieu de partir de zéro, mais il y a déjà des dizaines de milliers d'abonnés et ça plaît pas à tout le monde.
Plus aucune référence à Emmanuel Macron, toutes les anciennes publications supprimées et le nom modifié. Gabriel Attal n'a en réalité gardé qu'une chose, un petit trésor, 35 000 abonnés sur Instagram, 50 000 sur X, des followers qui se retrouvent maintenant à recevoir du contenu pro-Gabriel Attal. Cette appropriation, c'est mesquin et idiot, s'emporte un ancien conseiller du chef de l'État. Attal n'en fait qu'à sa tête, s'agace un macroniste de la première heure qui l'assure, il est prêt à tout. Après avoir déjà mis la main sur le parti Renaissance, ses militants et ses millions d'euros dans les caisses, c'est un symbole de plus, avec le risque d'un retour de bâton du président ou d'Edouard Philippe. Ça commence à les chauffer, prévient l'ancien ministre. Quant à l'entourage de Gabriel Attal, il assume la transformation de ses réseaux sociaux et rappelle qu'ils appartiennent au parti.
Alors Gabriel Attal, candidat, ce week-end, il a esquissé des éléments de programme. Il parle notamment de la gestation pour autrui. Ce sera le thème de notre voix de droite, Louis Sarkozy, qui défend la GPA. Ça n'a pas plu à tout le monde à Renaissance. Vous allez l'entendre ce matin, mais vous réagissez si vous le souhaitez au 32-16. À l'étranger, toujours pas d'accord entre l'Iran et les États-Unis, mais une bonne nouvelle sur les marchés. On prend.
Oui, les cours du pétrole, ils sont à la baisse, moins 5%. Le prix se stabilise à 98 dollars le baril. Il était entre 115 et 120 au plus fort de la crise.
Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Moins bonne, direction Roland-Garros avec une première journée très compliquée pour les joueurs français.
Oui, bilan de ce premier jour, 10 éliminations en 12 matchs. Quentin Alice et Valentin Royer s'en sont sortis. 9 Français seront sur les courts aujourd'hui avec un certain Gaël Monfils ce soir en nocturne. Peut-être ses dernières balles sur la terre parisienne. Alors forcément, Julien Taxis, ses fans bouillonnent d'impatience.
Oui, et l'engouement était déjà perceptible hier sur le court numéro 4 où plusieurs centaines de supporters étaient venus assister à l'entraînement de Gaël Monfils.
C'est un symbole, c'est franchement un symbole du tennis.
Un monument français, de le voir sur sa fin de carrière, ça fait toujours mal.
Un petit peu émouvant puisque c'est comme une légende du tennis français, c'était le showman.
La nostalgie déjà perceptible également chez les joueurs, à l'image du français Corentin Moutet.
Pour moi, Gaël, c'est un emblème du tennis français, une icône du tennis. C'était un idole en tout cas en grandissant, une inspiration, ça l'est toujours.
Car au-delà du sportif, c'est aussi l'homme qui a marqué les esprits dans le vestiaire. Novak Djokovic est lui aussi fan de mon fils.
Je ne connais personne qui n'aime pas Gaël dans notre monde. C'est l'un des joueurs que je préfère regarder jouer. Je me réjouis de le voir jouer pour son dernier Roland-Garros.
Et pour le principal intéressé, pas de pression particulière, Gaël, mon fils, a juste envie de profiter du moment.
C'est terrible ce que je vais dire, mais en fait, peu m'importe de ce qui se passe. En fait, pour moi, c'est tellement une chance de pouvoir dire au revoir. Honnêtement, je suis très, très chanceux.
Le roi de la nuit à Roland-Garros a bien évidemment été programmé en night session. Il affrontera ce soir son compatriote Hugo Gaston.
Et puis alors, évidemment qu'on va suivre Gaël Monfils, c'est historique pour le tennis français, mais toutes les balles, vous pouvez suivre toutes les balles de Roland-Garros sur la radio digitale d'RMC qui s'appelle 100% Terre battue. Si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, c'est le moment ou jamais, hein, l'application RMC évidemment. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Compiègne à 15h15 aujourd'hui.
Oui, le pronostic de la Dream Team des courses RMC sans favori, c'est le 5, comme quoi, et l'outsider, c'est le 3, Pumaline Park.
Et puis on joue Thomas Becker, c'est le moment de vous inscrire. Ah oui, j'avais oublié de vous prévenir, mais c'est maintenant. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire pour le jeu La Liste des 26, le jeu de la liste RMC. Vous pouvez tenter de remporter 10 000 euros. Rien que ça, 10 000 euros. En ce moment, on prend ou alors le pack Coupe du Monde avec vidéoprojecteur, écran, barre de son, maillot des Bleus, babyfoot. Vous venez tout simplement sélectionner un joueur dans la liste des 26 et il y a un cadeau derrière. Vous inscrivez, vous avez 5 minutes. Allez, vous savez quoi, il est 39, vous avez jusqu'à 44. 39 plus 5, ça fait 44. Pour vous inscrire, vous envoyez liste au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et puis alors, c'est du jamais vu. On en parle évidemment longuement ce matin. On vous accueille, on vous écoute au 32-16. Météo France qui déclenche une vigilance canicule au mois de mai. Et avec le dérèglement climatique, ces épisodes vont se multiplier. La France est-elle vraiment prête? Non, dit François Gemène, professeur à HEC, expert du GIEC. Il nous répond dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h41 sur RMC, RMC Story, une première historique, le déclenchement d'une vigilance canicule de Météo France au mois de mai. Bonjour François Gémen.
Bonjour.
Vous êtes professeur à HEC, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et vous venez de publier « Parler du climat sans plomber l'atmosphère ». C'est aux éditions Odile Jacob. La France est-elle prête à affronter ces vagues de chaleur qui, par ailleurs, François Gémen, avec le dérèglement climatique, vont s'intensifier, se répéter? Vous vous dites non, nous ne sommes pas prêts.
Non, très clairement, on n'est pas prêt. Il y a plein d'enjeux sur les bâtiments scolaires, par exemple. Les écoles vont rouvrir demain. Et donc, on sait bien que ces chaleurs, c'est quand même pas très propice à l'apprentissage ou à la santé des enfants. On n'est pas prêt non plus en termes de climatisation. C'est resté longtemps un tabou dans le pays. Alors que, bien entendu, il va falloir développer la climatisation pour que les Français ne meurent pas de chaud dans leur logement l'été. On n'est pas prêt sur la rénovation des logements. Il y a plein de choses à faire, à condition de s'organiser.
Alors, je vais me tourner vers Géraldine Demory, notre chef du service météo. Géraldine, d'un mot, ce qui se passe en ce moment, c'est simple, c'est du jamais vu.
Ah ben c'est du jamais vu pour un mois de mai, effectivement. On a eu, alors hier, on a égalé le record pour la journée la plus chaude pour un mois de mai. Aujourd'hui, on va vraiment exploser ces records. Parce qu'on avait un indicateur thermique national de 22,9 degrés. Donc ça, c'était le record.
Comme une moyenne un peu.
C'est la moyenne des températures maxi et mini sur tout le pays. Là, on devrait être autour des 25 degrés. Donc vous imaginez un petit peu sur une moyenne.
Un record qu'on pulvérise.
C'est un record qu'on va pulvériser aujourd'hui. Ça va durer. En plus, ça, c'est aussi un autre phénomène très important. C'est-à-dire que c'est particulièrement précoce, particulièrement intense, et ça va durer puisqu'on va avoir cet indicateur thermique autour des 25 degrés jusqu'à mercredi, et ensuite ça va à peine faiblir. Il faudra attendre dimanche pour qu'on commence à respirer un petit peu mieux.
Bon, je vous suis, François Gémen. Vous avez parlé des infrastructures beaucoup, et on va y revenir. Mais des conséquences, on a pu en mesurer hier avec des malaises dans plusieurs courses à pied. Il y a même eu un décès à Paris dans le 20e arrondissement, des noyades aussi. C'est le signe que la population elle-même n'est pas prête à ce qui l'attend.
Oui, tout à fait. On s'imagine, à Paris, il y avait des courses qui étaient organisées avec des dénivelés très importants. Il faut le dire, c'est pas une bonne idée d'organiser ce type d'épreuve sportive lors de fortes chaleurs. Et effectivement, il y a encore en France une culture du risque qui n'est pas véritablement présente. Et on se dit finalement, il fait juste un petit peu chaud et ce n'est rien. En réalité, il faut comprendre que ces épisodes qu'on vit ne sont pas des épisodes exceptionnels, mais que c'est en réalité la nouvelle norme, et que donc il faut s'organiser différemment. C'est vraiment un des points sur lesquels j'insiste dans le livre, c'est que tant qu'on associe le climat en permanence à des mauvaises nouvelles, à des événements exceptionnels, ben en fait on ne va rien faire. Ce qu'il faut, c'est montrer quels sont les bénéfices de la transition. Pourquoi on a intérêt à s'organiser pour faire face à cette nouvelle norme?
C'est important ce que vous dites, ce n'est pas... arrêtons d'alarmer sur des phénomènes exceptionnels, parlons d'une nouvelle norme, le mois de mai. On peut imaginer parfaitement que ça déborde sur septembre aussi, qu'on ait des fin septembre,
absolument,
des débuts octobre, très chaud.
Absolument, on aura à la fois des vagues de chaleur plus précoces, mais également plus tardives, tout à fait, et plus intenses surtout. Et
Bruno est en ligne avec nous, il est dans l'Ain à Oyonnax. Bonjour Bruno.
Bonjour RMC, bonjour l'équipe.
Soyez le bienvenu. Vos Merci. Petits trucs, Bruno, on partage ce matin au 3216 sur le WhatsApp RMC. Vos petits trucs pour faire face à la chaleur.
Alors j'ai une petite astuce, très simple. Petite bouteille d'eau en plastique.
Ouais.
Vous la remplissez au robinet. Généralement, l'eau est fraîche au robinet. Enfin, ouais. Toujours inférieure à la température ambiante. Et ensuite, vous appliquez la bouteille juste en dessous du poignet. Vous voyez, au niveau de l'articulation. Pendant quelques secondes, vous allez déjà sentir une réaction. Vous faites la même chose sur l'autre bras, et ensuite vous
terminez les poignets, la nuque aussi, ça fait un bien fou.
Et la nuque, et voilà.
Ouais.
Et la température va descendre de quelques degrés, mais la différence va se sentir entre la température ambiante et la température du corps.
Ouais, puis on était avec notre couvreur tout à l'heure qui travaille aujourd'hui sur les toits. Faut se rendre compte de ce que c'est que de bosser sur les toits, qui trempe son t-shirt toutes les demi-heures. Merci beaucoup à Bruno de votre appel ce matin au 32-16. François Gémen, vous posez des questions très concrètes. Vous l'avez évoqué, les écoles. On va voir peut-être des écoles qui où on pourra pas faire classe cette semaine, par exemple. On voit ressurgir le débat sur la clim, la climatisation qui sera par exemple installée dans toutes les classes des écoles de Nice dès la rentrée 2027. Les travaux ont débuté déjà la dernière vacance. Pour vous, ce débat, il est derrière nous. On va climatiser partout.
Alors, je pense qu'il faut aujourd'hui être réaliste. Et de la même manière que les gens ont besoin de se chauffer en hiver, ils vont avoir besoin effectivement, de se climatiser en été. La grande question, c'est comment on fait? Comment est-ce qu'on évite de faire n'importe quoi, notamment avec des nouveaux systèmes de climatisation aujourd'hui qui sont largement décarbonés et surtout qui peuvent être inclus dès la conception du bâtiment pour éviter qu'on doive les rajouter par la suite?
Ouais, ouais, il faut le penser dès la construction. Victor Pourchet, beaucoup de messages WhatsApp ce matin.
Et on a notamment Christian sur le WhatsApp RMC qui vous interpelle aussi, François Gémen, et qui dit la climatisation, elle augmente le réchauffement climatique par le biais des moteurs extérieurs qui réchauffent et il a peur de rentrer dans un cercle vicieux.
Vous dites qu'on peut faire ça proprement, François Gémen ?
Effectivement, c'est le problème, effectivement, quand on rajoute effectivement des appareils parfois par la suite, d'où l'intérêt d'intégrer les systèmes de climatisation dans le design du bâtiment, notamment avec des systèmes de circulation d'air qui évitent ce problème de réchauffement.
Oui, ça coûte aussi un petit budget.
Ça coûte cher, oui, c'est ça. Il faut réaliser qu'effectivement... C'est un investissement. Je pense qu'il faut arrêter de parler des coûts de la transition. Il faut réaliser que c'est un investissement pour l'avenir parce que c'est la nouvelle norme. C'est pas juste des phénomènes exceptionnels.
Alors au début du mois, la patronne des écologistes, Marine Tondelier, a proposé de créer un congé payé climatique 5 jours par an quand il y a des fortes chaleurs, des inondations, quand il faut répondre à une situation à laquelle on n'est pas préparé. Si on ne s'adapte pas, en fait, on va rester bloqué chez nous souvent, François Gémen.
En fait, on s'est beaucoup moqué d'elle avec cette proposition, mais elle pose un vrai sujet. On a entendu tout à l'heure un couvreur qui allait devoir travailler sur les toits. Il va falloir effectivement adapter les horaires de travail, notamment certains métiers en extérieur, pour éviter de risquer la santé des gens et pour éviter que le travail ne devienne trop pénible. Alors, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adapte les horaires? Est-ce qu'on décale un peu les chantiers? Est-ce qu'on met des jours de congé? Là, on peut avoir un vrai débat, mais il y a un vrai sujet sur le travail, sans compter que les vagues de chaleur vont évidemment aussi affecter notre productivité et aussi notre capacité de concentration. Donc, c'est pas seulement les métiers en extérieur qui sont concernés.
Ça impacte l'économie. On a parlé aussi des agriculteurs dans les journaux des RMC ce matin. Simplement, pardonnez-moi, François Gémen, je voudrais me retourner vers Géraldine à nouveau. On est en train d'avoir un discours quand même assez inquiétant sur les températures qu'il va faire cette semaine. Et je parle sous votre contrôle. On est en train de pulvériser des records. C'est quoi cette vigilance jaune? Normalement, on nous habitue à du orange, du rouge, du...
Non, c'est vrai, mais parce qu'en fait, la vigilance canicule, elle est un peu particulière, mais elle répond à des seuils de température qui sont calculés pour des mois de juillet, août. Donc, ils sont calculés pour quand on a trop chaud en juillet et août. Donc, évidemment, ils ne sont pas du tout adaptés pour un mois de mai. C'est pour ça qu'on est sur une vigilance jaune. On pourrait quand même passer en vigilance orange dans quelques heures. Donc, on est vraiment là, pour le coup, sur quelque chose qu'on n'a pas encore vu à cette période de l'année.
Alors, François Gémen, j'ai une dernière question qui ne plaît pas toujours beaucoup aux écologistes, c'est bien normal, mais avec la fin de la grisaille et de la pluie, avouons-le, on s'est d'abord réjoui du temps qu'il a fait en fin de semaine dernière. Et je pense à ça parce que je vois votre livre « Parler du climat sans plomber l'atmosphère », j'aime bien le titre, c'est chez Odile Jacob. Et je vous pose la question, est-ce qu'on a le droit d'être inquiet pour la planète mais content du barbecue?
Mais évidemment, c'est-à-dire qu'il y a évidemment certains avantages également, surtout un long week-end prolongé de Pentecôte. Donc évidemment, profitons-en tant que c'est possible, mais il ne faut pas oublier que cette situation, effectivement, c'est la nouvelle norme et nécessite qu'on s'adapte.
Merci beaucoup François Gémen. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'RMC ce matin, prof à HEC, expert du GIEC et donc auteur de Parler du climat sans plomber l'atmosphère chez Odile Jacob. François Gémen en direct avec nous ce matin sur RMC. Il est 7h49. Et merci à Bruno aussi qui était en ligne avec nous depuis Oyonnax. La voix de droite d'RMC, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Mathieu.
Gabriel Attal, candidat à la présidentielle, qui souhaite l'ouverture d'un débat sur la légalisation de la GPA. Pas question, lui a répondu Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Le camp Renaissance est divisé sur cette question.
Oui, je me range du côté de Gabriel Attal sur cette question. Qu'on soit clair, moi je suis pour la légalisation de la GPA, même si elle ne me plaît pas, parce que l'État, c'est pas seulement l'interdiction, c'est aussi l'encadrement.
Il est 7h50, à tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h51 et le bonus RMC, Victor. Dis donc, nos influenceurs ont du talent ce week-end.
Eu du talent. Ils ont fait deux fois la chose la plus patriotique qui soit, c'est-à-dire battre les Anglais en sport. Acte 1, samedi, le Crunch Creator, c'est un France-Angleterre en rugby, deux équipes composées de stars des réseaux sociaux. Dernière minute, ultime transformation pour les Bleus et pour la gagne.
Allez, pour l'histoire.
Et dans la foulée de l'explosion de joie, le discours du héros Diego.
Les amis, grâce à vous, j'ai vécu le plus beau jour de ma vie. Donc merci à tous et vive le rugby. Je vous aime tous.
Et acte 2, donc hier soir au Parc des Princes, même principe avec du foot, le 11 All-Star, 92e, 3-3, pénalty pour la France. Et allez, une petite Marseillaise pour fêter ça.
Les streamers ont du talent.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche,
voix de droite.
Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour Mathieu.
Notre voix de droite le lundi, c'est Louis Sarkozy. Louis, le débat sur la GPA, la gestation pour autrui, a été relancé ce week-end. Pour l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, il faut un débat sur la légalisation de la GPA. La porte-parole du gouvernement est contre. Maud Bréjon refuse, je la cite, hein, qu'on mette à disposition le ventre des femmes. Vous en pensez quoi, Louis ?
Moralement, la GPA ne me plaît pas. Moralement, je suis contre l'idée de la location d'un ventre ou de transaction d'enfants. Mais la loi, ce n'est pas de la morale. Ça ne peut pas l'être. C'est pour ça que je suis pour la légalisation de la GPA. Car une loi sert à protéger les gens et pas à les corriger. Interdire la GPA exactement, c'est protéger qui ? Une mère porteuse volontaire ? Des parents qui désirent un enfant ? Tout le monde est adulte, tout le monde est informé, tout le monde est consentant. Il n'y a pas de victime. Et le crime sans victime, ça n'existe pas. Sans victime, il n'y a rien à punir.
Alors, Maud Bréjon dit que la victime, c'est la femme dont on instrumentalise le corps.
Enfin, pardon, pour reprendre ces termes, personne ne met à disposition le ventre de personne, Madame Bréjon. Ce sont les femmes elles-mêmes qui se portent volontaires. Quand vous prétendez les protéger contre leur propre choix, vous ne les défendez pas, vous les infantilisez. Vous leur dites, mesdames, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, mais moi, vous inquiétez pas, je le sais mieux. C'est vous qui essentialisez les femmes. C'est vous qui les réduisez à un ventre. J'ai une proposition, d'ailleurs, une idée comme une autre. Si on laissait, pour reprendre un argument si souvent entendu dans un autre débat, les femmes décidaient pour elles-mêmes et pour leur corps.
Mais vous ne croyez donc à aucune limite morale ?
Si, bien sûr, j'y crois profondément. Mais la morale, ce n'est pas le rayon de l'État, Mathieu. La morale, c'est l'affaire de la famille, de l'église, de la mosquée, de la synagogue et au bout du compte, de la conscience de chacun. Le grand mal de notre époque, c'est l'État moralisateur. Le point de vue d'un député sur la consommation de substances illicites, pardon, le point de vue moral d'un bureaucrate parisien sur ce qu'une femme doit faire ou non avec son corps, ça ne m'intéresse pas une seule seconde.
Vous êtes dur avec la classe politique, Louis Sarkozy.
Mais Mathieu, vous voulez confier la morale publique à des gens qui changent d'avis tous les 3 ans au gré des sondages ? Non, on cherche sa morale et on la trouve dans sa famille, dans sa culture, dans sa propre conscience, pas sur les bancs de l'Assemblée. Je ne leur demande pas d'avoir raison sur le bien et le mal, Dieu merci. Je leur demande de ne pas s'en mêler.
Mais l'État doit bien encadrer, non, le risque marchand, l'argent, tout ce qu'il y a derrière.
Ah, bien sûr, un encadrement, mais pas une interdiction. La nuance, permettez-moi de le dire, est immense. L'État a un rôle légitime. Vérifier le consentement, l'information, la santé, empêcher la contrainte, empêcher la fraude. C'est son métier. Faire respecter les contrats entre adultes, protéger les faibles d'une vraie coercition. C'est ça l'État utile. Mais décréter qu'une pratique librement consentie est un délit parce qu'elle heurte la sensibilité d'une porte-parole, ça c'est l'État de trop.
Donc pour vous, ce débat, finalement, il dépasse la GPA.
Mais oui, si vous voulez, parce que la GPA, c'est qu'un symptôme. La vraie question, c'est, mesdames et messieurs, à qui appartient votre vie ? À vous ou à un ministère ? Chaque fois que l'État interdit une pratique entre adultes consentants au nom du bien, il ne nous rend pas meilleurs, il nous rend mineurs.
Et en attendant, Louis, des centaines de couples français vont faire une GPA à l'étranger, au Canada, aux États-Unis,
exactement,
par exemple. La loi française, ça, la loi ne l'empêche pas. En fait, elle l'exporte. Qu'est-ce que ça dit de notre interdiction ?
Bah, que c'est une interdiction de façade. Une morale pour les caméras. On se donne bonne conscience à Paris pendant que les couples qui, eux, ont les moyens, vont ailleurs, vont à l'étranger, pratiquer la GPA. Résultat, on n'a pas supprimé la GPA. On l'a réservée aux riches et délocalisée hors de tout contrôle français. C'est le pire des deux mondes. Une loi qui ne protège personne et qui ne s'applique qu'aux pauvres. John Stuart Mill l'a écrit il y a 160 ans sur lui-même, sur son corps et sur son esprit, l'individu est souverain, même, cher Mathieu, si ça nous déplaît.
Merci Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC, vous réagissez au 32-16, vous n'hésitez pas. Demain, la voix de gauche, c'est Cécile Duflot, vous le savez. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une la vigilance canicule déclenchée par Météo France, 18 départements, ça n'était jamais arrivé aussi tôt dans l'année. On va faire un point aussi avec Géraldine Demory juste avant 8h, puis après il y aura Emmanuel Le Chypre avec une bonne nouvelle ce matin, on va prendre.
Oui, parce que si la température monte au thermomètre, la température baisse sur les cours du pétrole. Est-ce que nous allons bientôt payer moins cher le litre à la
pompe ? Vaste question. Il est 7h56, oui. Vous avez quelques minutes pour réfléchir à votre réponse. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h59. Vous êtes sur RMC, RMC Story. Vous avez fait le bon choix.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. On va dresser le tout premier bilan de ces premières fortes chaleurs. Il est lourd. Deux baigneurs emportés par le courant en Gironde, une noyade en Seine-et-Marne, un mort lors d'une course à pied à Paris et des malaises lors de nombreuses épreuves. Nous serons à Rennes aussi dans ce journal où un adolescent de 12 ans a été retrouvé mort au bord de la Vilaine. Hier, une serviette de bain nouée très fort autour de son cou. Et on va vous donner les premières infos RMC sur le dispositif de sécurité pour le week-end prochain à Paris pour la finale de la Ligue des Champions.
Bon, alors si vous avez mal dormi cette nuit, sachez que c'est normal. Il n'a jamais fait aussi chaud à la fin d'un mois de mai.
Oui, alors Géraldine, vous êtes restée avec nous puisqu'on a ces 18 départements de l'Ouest et de régions parisiennes en vigilance jaune, là, ce matin. Et vous nous dites que les 36 degrés qui sont attendus dans l'Ouest aujourd'hui, c'est complètement inédit.
Complètement, effectivement. Alors c'est vrai que c'est rare qu'on vous parle d'une vigilance jaune en matière de météo. Mais il faut bien comprendre que pour passer en vigilance canicule, il faut dépasser certains seuils qui ont été calculés sur les mois de juillet et août. C'est pas du tout adapté pour un mois de mai. Il y a fort à parier d'ailleurs que certains départements passent même en vigilance orange dans quelques heures. C'est-à-dire que c'est une situation exceptionnelle, jamais vue avant un 15 juin. Épisode donc particulièrement précoce, particulièrement intense aussi, puisqu'on a égalé hier la journée la plus chaude jamais vue en mai avec un indicateur thermique de 22,9 degrés. Aujourd'hui, on va littéralement exploser ce record. Aujourd'hui et jusqu'à mercredi, on attend des indicateurs thermiques autour des 25 degrés. Donc là aussi, inédit avant une mi-juin. Et il faudra attendre au moins dimanche pour que les températures commencent à baisser. Alors forcément, si vous êtes au bord de l'eau, c'est tentant d'aller piquer une petite tête, mais soyez vraiment très prudent. D'abord, il y a un risque de choc thermique. À La Rochelle, par exemple, on en parlait, 36 degrés dans l'air cet après-midi, mais seulement 19 dans l'eau. Et puis dans l'océan Atlantique, vous avez le risque de baïnes, ces courants très dangereux. À cette période de l'année, ils ne sont pas encore forcément bien balisés, donc ne prenez pas de risques.
Et ces baïnes ont fait deux morts. D'ailleurs, il fait chaud comme en été, il y a un monde fou à la plage depuis le début du week-end. Deux baigneurs, donc en Gironde, qui sont morts emportés par les courants de ces baïnes. Ça s'est passé à Lacanau et à Lèche-Cap-Ferré. Les secours alertent, pourtant, le bilan aurait même pu être bien plus dramatique. Il y a une trentaine quand même de baigneurs qui ont été emportés en trois jours par ces baïnes. Alors la plupart des plages ne sont pas encore surveillées à cette époque de l'année et ils ont été secourus par des sauveteurs bénévoles qui étaient quand même mobilisés. Autre drame, près de Melun, où un jeune de 17 ans s'est noyé en se baignant dans la Seine. Et alors de nombreux événements sportifs étaient maintenus malgré la chaleur. Et quand on dresse le bilan ce matin, Inès Zegloul, pour RMC, on s'aperçoit que ça a tourné à l'hécatombe avec un mort à Paris.
Oui, c'était l'un des 1652 SARS sur la ligne de départ d'un 10 km organisé dans le 20e arrondissement, 118 mètres de dénivelé, plus de 25 degrés au moment de ses lancers, retrouvé en arrêt cardio-respiratoire par les pompiers qui n'arrivent pas à le réanimer. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, est décédé. C'est une immense tristesse, commente la mairie de Paris, au sud-est de la capitale, aussi à Maison-Alfort. Trois courses étaient prévues, toutes interrompues pour cause de malaise en série. 16 au total, 6 légers et 10 cas graves sans pronostic vital engagé. Du côté de Royan, cette fois-ci, des ambulances supplémentaires ont été mobilisées pour acheminer les marathoniens en difficulté vers le poste de secours. Plus d'une centaine de participants y ont été soignés. Trois victimes également évacuées vers des hôpitaux en marge d'un 10 km en bord de mer à Menton. Bref, vigilance exhorte désormais le ministère des Sports qui a les pratiquants, les encadrants et les organisateurs d'événements sportifs à faire preuve de la plus grande prudence.
Et alors, est-ce en lien avec la chaleur? Un footballeur de 35 ans, footballeur amateur, est mort durant un match qui se déroulait hier après-midi à Marseille, dans le stade qui est au pied de Notre-Dame-de-la-Garde. Il s'est effondré et les secours n'ont rien pu faire. Voilà ce qu'écrit ce matin le journal La Provence.
Et on se demande ce matin ce qui s'est passé hier à Rennes.
Où un adolescent de 12 ans a donc été retrouvé mort sur les rives de la Vilaine. Mais alors ce qui est suspect, c'est qu'une serviette de bain était nouée autour de son cou. Martin Lange, vous êtes notre correspondant RMC en Bretagne. Vous êtes en direct de la rive, là où le corps donc a été découvert. Une enquête pour meurtre est ouverte.
Oui Quentin, c'est ici à quelques mètres d'un pont, dans une zone protégée par des arbres en bord de Vilaine, que le corps de cet adolescent de 12 ans a été retrouvé hier. Ce matin, les barrages imposés par les forces de l'ordre dans tout le quartier ont été levés. La grande tente blanche qui abritait la police scientifique a été démontée. Il n'y a plus aucune trace du drame qui s'est joué ici il y a quelques heures. Cet adolescent de 12 ans retrouvé mort, donc avec une serviette nouée autour du cou. Plusieurs éléments interpellent les enquêteurs ce matin. Cette serviette, hein, bien sûr, mais aussi les cris entendus par un pêcheur qui a donné l'alerte. S'agit-il d'un acte volontaire, d'un jeu qui aurait mal tourné? En tout cas, selon des témoins sur place, hein, les policiers recherchaient hier des tiers, peut-être d'autres adolescents. L'enquête pour meurtre d'un mineur de moins de 15 ans a été confiée à la police judiciaire de Rennes, qui dit n'exclure aucune hypothèse.
Martin Lange, en direct de Rennes, ce matin pour RMC. Tiens, on en parle depuis 5h du matin sur RMC. La Ligue contre le cancer, qui demande un durcissement de la loi concernant les cigarettes électroniques et tout ce qui est vapotage, en les interdisant des lieux publics, comme c'est le cas déjà pour le tabac depuis un an bientôt, aux abords des écoles et des parcs notamment. Écoutez ce que disait un petit peu plus tôt ce matin sur RMC Emmanuel Ricard, directeur de la prévention à la Ligue contre le cancer.
On a les fumeurs qui, la cigarette électronique peut être un moyen pour soit substituer la nicotine, soit faire le sevrage. Par contre, on a une population qui est la population jeune, qui de plus en plus consomme. La crainte qu'on a, c'est qu'on soit en retard d'une guerre et que ce qu'on a gagné sur la cigarette classique, on est en train de la perdre sur le vapotage.
15 personnes mises en examen hier soir à Paris, 7 jugées en comparution immédiate demain. C'est ce que fait savoir le parquet de Paris après la rixe de jeudi dernier à la veille de la finale de Coupe de France que Lens a remportée et a célébrée sans le moindre incident. Je vous signale d'ailleurs que l'entraîneur lensois Pierre Sage sera l'invité de l'After Foot ce soir à 22h sur RMC.
Il demande à faire du jour de la victoire de Lens un jour férié. Oui, vous avez vu ça.
Pardon. C'est le maire de Lens qui demande.
C'est le maire de Lens. Ah, pardon, oui, c'est pas Pierre Sage. Oui.
Non, mais bon, il pourra revenir là-dessus ce soir dans l'after. Je trouve ça quand même incroyable. Alors, on se tourne maintenant vers la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu, comme chacun le sait, samedi. Paris qui jouera contre Arsenal. Arsenal qui a encore gagné ce week-end d'ailleurs. Mais alors, Virginie Fulpin, en direct ce matin pour RMC, on sait déjà qu'il n'y aura pas de parade en cas de victoire sur les Champs-Élysées. On a des infos RMC ce matin.
Oui, déjà, vous oubliez la voiture le week-end prochain à Paris, hein, d'une manière générale, à partir de vendredi 17h jusqu'à dimanche matin, une bonne partie du 8e arrondissement de la capitale sera interdite à la circulation. Ça déborde aussi sur les 16e et 17e arrondissements. Il sera même interdit de stationner sur les Champs-Élysées et dans les rues adjacentes. On attend beaucoup de monde à Paris samedi et dimanche, en plus de cette finale retransmise en direct dans un Parc des Princes qui sera plein. Il y a aussi Roland Garros et puis deux énormes concerts, Damso à la Défense Arena et Aya Nakamura au Stade de France. Si le Paris Saint-Germain conquiert sa deuxième Ligue des Champions de suite, les joueurs ne feront donc qu'un pas de parade sur les Champs-Élysées dimanche, comme ils l'avaient fait l'an dernier. L'option qui semble se dessiner, c'est une célébration sur le Champ de Mars. La préfecture de police de Paris va d'ailleurs demander l'interdiction de circulation et de stationnement autour de ce Champ de Mars de samedi 22h jusqu'à dimanche 20h. Le but est que le Paris Saint-Germain puisse s'offrir une photo avec la Tour Eiffel en toile de fond.
Bon, on verra ça. Déjà, faut gagner cette finale de Ligue des Champions pour Paris contre Arsenal samedi, donc en fin de journée. Il y avait au moins 30 000 personnes et tout s'est très bien passé d'ailleurs hier à Bordeaux pour le retour des rugbymen, sacré champion d'Europe pour la deuxième année d'affilée. Ils ont paradé dans la ville avant d'être reçus à la mairie et au stade Chaban-Delmas qui était plein pour l'occasion. Je vous signale qu'il y aura 9 Français en lice aujourd'hui à Roland-Garros que vous vivez, vous le savez, dès les premières balles à 11h sur RMC et notre radio digitale 100% terre battue. Gaël Monfils lui jouera dans la soirée pour son dernier Roland-Garros à 39 ans. On espère que ça se passera mieux qu'hier sur les 12 Français qui étaient engagés, il y en a 10 qui ont été éliminés. Et puis alors, il y a un événement très controversé qui a commencé cette nuit à Las Vegas, aux États-Unis. Les jeux améliorés, on va traduire ça comme ça, on en a déjà parlé sur RMC, c'est les jeux du dopage, parce que le dopage est autorisé. Il y a un Français qui participe à ça. Cette nuit, un nageur grec a nagé le 50 mètres nage libre, 7 centièmes plus vite que l'actuel record du monde, sans être homologué, bien sûr.
Ça n'empêche pas qu'il touchera une prime... magnifique pour les records battus, c'est ce qu'ils ont promis à tous les dopés là.
En fait, c'est le seul enjeu de ces jeux améliorés, c'est
de battre des records
et toucher.
Ils seront pas homologués.
Ils seront pas homologués.
Bref, je vous invite à télécharger le podcast d'une chronique que vous ne connaissez peut-être pas à 8h08 du matin qui s'appelle La Causerie. Virginie Fulpin qui en parlait vendredi matin de ces Enhanced Games à Vegas. Merci Quentin Vinet. C'était le journal de 8h, il est complet, il est 8h08 et c'est l'heure de parler d'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
C'est pas fameux, hein, l'actu de Jean Fayet aujourd'hui. Il y a quand même une bonne nouvelle. Et ces derniers temps, c'est pas sur ce terrain-là qu'on les comptait, les bonnes nouvelles. Les cours du pétrole qui baissent sensiblement. Est-ce que cette baisse est durable?
Alors,
On va sans doute au moins vers un premier palier de baisse assez important. Hein. C'est vrai que cette perspective d'un accord entre Washington et Téhéran, elle a provoqué une forte baisse des prix du pétrole. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, le baril valait encore 112 dollars. Vendredi, c'était 105 dollars. Et là, on est passé quasiment sous les 95 dollars ce matin. Si la détente se confirme, notamment avec la perspective d'une réouverture du détroit d'Hormuz, il faudra quand même attendre quelques semaines avant que les livraisons de brut ne reprennent au même rythme qu'avant, parce qu'il va falloir remettre en route les infrastructures endommagées, il faut faire revenir les supertankers, il faut reconstituer les stocks. Donc tout ça va prendre un peu de temps. Ensuite, dans les stations-service, eh bien, il va falloir écouler le carburant acheté au prix fort. Carburant, en plus, qui met 2 à 3 fois plus de temps à s'écouler dans les périodes de baisse que pendant les périodes de hausse. Parce que autant pendant les périodes de hausse, les automobilistes se ruent à la pompe, autant quand les prix baissent, ils se disent « Mais pourquoi j'achèterais aujourd'hui du carburant que je paierais moins cher demain ?» Et donc, c'est 2 à 3 fois plus lent, en général, de vider les cuves d'une station quand les prix baissent que quand les prix montent. Tout ça fait que ça va mettre du temps à se répercuter, mais grosso modo on pourrait avoir un nouvel équilibre des cours du brut quand même, une fois qu'on aura supprimé la prime spéculation et la prime géopolitique, autour de 85-90 dollars le baril, et que ne resteront plus que les contraintes physiques.
Bon, à la pompe Manu, à parce que là pompe. On suit les cours avec
alors,
passion.
C'est bien pétrole, mais à la pompe.
Mais voilà, mon sans-plomb, mon gazole, quand est-ce que ça se passe?
Alors, ça veut dire que dans les 2 semaines à venir, les prix à la pompe pourraient perdre 15 à 20 centimes au litre, ça veut dire à peu près 1,95€ le litre de gazole, 1,85€ le sans-plomb, mais il faudra sans doute plusieurs semaines avant de retrouver les prix d'avant-guerre. Les prix d'avant-guerre, c'était un peu moins de 1,70€ le litre pour le gazole, un peu plus pour le sans-plomb 85-95. Mais en tout état de cause, ça veut dire qu'on partira quand même en vacances, ou du moins les premiers qui partiront en vacances début juillet pourront prendre la route avec des prix du carburant un peu plus raisonnables. J'ai quand même payé 2,40€ mon litre de sans-plomb 95 sur l'autoroute ce week-end, voyez.
Ah oui, mais en même temps, vous prenez l'autoroute, vous, Manu Le Chypre. je vous taquine. Ça dit 1,70, on n'y croit pas tout de suite, mais 1,85, ils signent tout de suite nos auditeurs.
Je vous dis mais les 1,85, si.
Alors, si la guerre s'arrête, en fait.
Alors, si on a la confirmation qu'il y a un accord, évidemment. Mais disons que si le pétrole reste quelques jours sous les 100 dollars le baril, autour de 90-95.
Un peu d'air au moins, quoi.
On le verra à la pompe dans les 2 semaines qui viennent assez significativement.
Alors, pour l'instant, les prix. Manu, les prix du jour?
Ah, ben oui, les prix du jour. C'est vrai.
Certains vont faire le plein rentrée de week-end.
Alors, le gazole, 2,12€ le litre. On était à 2,16€ à la veille du week-end. 2,11€, 2,12€. Ça fait quand même 4 centimes de moins que vendredi. Le sans-plomb 95. Le rythme ne baisse pas pour l'instant, c'est à peu près 1 centime et demi de hausse par semaine à 2,04. Le pétrole, bon, j'y reviens pas, forte chute. Et puis le gaz, bah aussi, profite hein, quand même de cette perspective d'accord États-Unis-Iran. Net baisse 45€ le mégawattheure, on était à 50 à la veille du week-end.
Merci Emmanuel Le Chypre, il est 8h12. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et dans un instant, Arnaud Demange qui débarque pour nous faire rire. 8h30, l'invité du face-à-face est Alain Bauer, professeur émérite de criminologie et auteur de Trump, le pouvoir des mots. Et puis juste après, face à Canteloup, Nicolas Canteloup en direct à 8h50. Voilà le programme, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Tous les jours, même les lundis de Pentecôte. Bonjour Arnaud Demange.
Même quand c'est férié. Bonjour les amis.
Ça va?
Salut. Alors aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte. Mathieu, vous l'avez dit, c'est une journée de solidarité en faveur des personnes âgées. Ça veut dire qu'on travaille gratos pour les boomers. Comme déjà la moitié de l'année en fait. Sauf que là, c'est plus officiel. C'est un peu le Boomers Day. Allez tiens, cadeau pour eux, la régie. Envoyez une chanson que les boomers aiment bien.
Peut-être pas celle-là, peut-être qu'une autre ça aurait été mieux.
Donc joyeux Boomers Day aux Josiane, Robert, Michel, Martine qui nous écoutent et qui vont nous dire « Mais vous plaignez pas de bosser, vous vous plaignez toujours, vous verrez quand vous aurez nos âges. Nous on a travaillé parfois jusqu'à 53 ans, alors on a bien mérité une journée de solidarité. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, aujourd'hui, de toute façon? Vous auriez traîné dans votre jardin? Vous avez pas de jardin. Nous, on en a un parce qu'on a travaillé. On n'est pas payé aujourd'hui, mais oui, ben, ça vous fait pas de mal d'être un peu solidaire. Vous savez combien ça coûte une pergola? Non, forcément, vous savez pas, vous avez pas de jardin. J'arrive pas à être propriétaire. Bah oui, ben moi, pour acheter la maison à Cannes en 77, j'ai pas hésité. Je suis allé prendre un mi-temps chez Mammouth et j'ai bossé. C'est pour ça que 3 ans plus tard, elle était payée. Alors, comme vous étiez tous en terrasse à glandouiller ce week-end, vous avez peut-être loupé une info incroyable. L'Élysée a été perquisitionnée. Vous avez vu ça? Il y a eu une perquisition à l'Élysée, quoi. Alors, c'est dans le cadre d'une information judiciaire sur l'organisation des cérémonies d'hommage au Panthéon. Et c'est la société Shortcut Events qui chope le contrat à chaque fois. Alors, les juges veulent savoir pourquoi. Bon, alors... C'est pas pour les défendre, Shortcut Events. C'est juste, doit pas y avoir non plus 250 boîtes spécialisées dans les panthéonisations, quoi. C'est-à-dire, c'est rarement un truc qu'on fait nous, c'est assez niche. Moi, nos enterrements à nous, ils sont plus modestes. Hein, faut dire. J'en ai parlé à ma femme. Je demandais pour le mien. Elle m'a dit non. C'est pas du tout prévu de te faire défiler ton cercueil dans les rues de Versailles. Parce que moi, je voulais une brigade de cheval de chaque côté, avec des petites filles qui apportent des médailles sur des coussins, et des Sylvie et des Nathalie qui pleurent. Tout mon public de spectacle en larmes, comme en Corée du Nord. Et un discours de Jack Lang. Il était charmant. Et puis, il a grandi. Alors, ça coûte 2 millions de panthéoniser quelqu'un. Alors que franchement, moi, vous me l'auriez filé, la dépouille de Badinter, une estafette, 3 potes, une pelle, on s'en tirait pour 50 balles. Et encore, parce que l'essence est chère. Donc là, voilà, les inspecteurs ont fouillé partout dans l'Élysée, ils ont dit, Monsieur le Président.
Oui, inspecteur.
On a trouvé un dossier bizarre.
Qu'est-ce que c'est ça? Oh, génial! C'est mon programme de gauche pour ma présidence. Je le cherchais depuis 9 ans.
Ah oui, on avait remarqué. Enfin, à mon avis, toute cette fouille n'est qu'un prétexte. Je pense que c'est Brigitte qui est derrière tout ça.
Fouillez tout! Fouillez son téléphone! Je suis sûr qu'il continue à la brancher, son actrice iranienne. Mais Brigitte, arrête. Je t'ai dit que c'était platonique. Là, on est sur les panthéonisations. Ah ouais, ta poufiasse de Téhéran, tu vas la panthéoniser aussi?
Vous savez que, selon le livre relayant cette rumeur, le président aurait échangé des SMS qui seraient allés, je cite, assez loin avec Goldshifter.
La citation, c'est assez loin.
La citation, c'est assez loin. Le président aurait dit à l'actrice iranienne, alors, si vous êtes sensible, bouchez-vous les oreilles, hein, éloignez les enfants, il lui aurait envoyé,
tu es très jolie.
Puceau, va. François Hollande, c'était autre chose. François Hollande, il disait, allez poupée, réserve-moi ta nuit, je vais te faire découvrir ton corps. Et si le matin, t'as encore faim, j'amène les croissants. C'était autre chose que son SMS de collégien.
C'est joli. Tu veux bien aller à la boum de Ludovic avec moi?
Alors, Gabriel Attal a déclaré sa candidature à la présidentielle depuis un petit village de l'Aveyron, Mur de Barret.
Oui, quelle drôle d'idée.
De Barrez, je sais pas si c'est du Barret ou Barrez.
Je n'en sais rien du tout. Bon,
vous êtes du coin, appelez-nous.
C'était un week-end ensoleillé. Je suis pas allé jusque-là dans le travail.
Ni dans l'Aveyron.
J'ai quand même trouvé que c'était une drôle d'idée. Pardon, mais le jour où moi je me présente à la présidentielle, je loue Bercy en fait. Je vais venir une chorale gospel. Je te fais 2 heures de discours enflammé avec juste un entracte de Jul et Gojira. Je vais pas un samedi sur une cagette, place du marché, avec qui me regarde.
Ouais, qu'est-ce qu'il fout là, le Barigo?
Ouais, il se présente à la présidentielle.
Bonjour messieurs, c'est pour qui vous votez en 2027?
Eh ouais, Jordan Bardella.
Ah bon? Pardon, alors désolé de vous avoir dérangé. Hein.
Et alors le Parigo, il paye pas sa tournée?
Si, si, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Un fusti pour tout le monde.
Et là, vous voterez pour moi?
Un fusti, bah encore moins. Hein.
Et alors ensuite, Gabriel Attal était à la transhumance des vaches.
Waouh! Alors c'est ça que vous appelez une poule? D'où ils sortent les œufs? Tu sens qu'il a voulu copier Chirac, quoi. Il était à bonjour, bonjour. Écoutez, crac crac, mangez des pommes. Mangez des pommes. Dites donc, vous avez une région abracadabrantesque. C'est loin, mais c'est beau. Vous êtes des travailleurs français. Et vous savez, le travailleur français qui voit des étrangers sur son palier, si vous ajoutez à ça le bruit et l'odeur...
Non, Gabriel, faut pas tout copier. Tout était pas bon à prendre.
Allez, bravo. Demain. Bravo Arnaud Demange. Qu'on retrouve, bien sûr, demain matin. Et sinon, à tout moment du jour, de la nuit, quand on veut, sur l'application RMC, en podcast, sur RMC et rmc.fr aussi, puis sur scène et ouais, bref.
Oh, partout.
Franchement, vous ratez Arnaud Demange, vous n'avez pas d'excuses. On va accueillir qui? On va accueillir Bernard, qui est dans l'Ain avec nous au 32-16 ce matin. Bonjour Bernard.
Oui, salut Mathieu.
Alors vous réagissez à l'idée d'invisibiliser la vape, d'empêcher de vapoter sur les plages, les jardins, ouais. Bref, les abribus, là où c'est interdit pour la cigarette classique, d'interdire la vape parce qu'aujourd'hui il y a une glamourisation de la cigarette électronique, notamment vis-à-vis des plus jeunes qui deviennent accro à la nicotine alors qu'ils n'étaient même pas fumeurs.
Alors écoutez, moi j'ai déjà arrêté de fumer grâce à la vape, alors que je fumais un paquet de nuit par jour. Grâce à la vape, j'ai arrêté du jour au lendemain. Par contre, moi j'aimerais mieux qu'un gamin se mette, vous n'allez pas pouvoir enlever l'envie à un gamin de faire quelque chose. Mais mieux vaut qu'il vape, qu'il achète un paquet de cigarettes de contrebande qui vient d'Algérie ou d'ailleurs à 5 balles. Et il sera moins malade, à mon avis.
Toujours est-il qu'il n'a pas besoin de fumer ni des cigarettes à 5 balles le paquet, ni sûr. D'acheter des cigarettes électroniques alors qu'il n'est pas accro à la nicotine.
Mais oui, bien sûr, mais de toute façon, on veut tout interdire. Pendant qu'on y est, on interdit le chewing-gum, ça donne de l'aérophagie, ça rend aussi malade que la vape. Hein. Bon, non, je pense que ça devient de l'hérésie complète. On veut être dans un pays où on a plus le droit de rien foutre, c'est comme du lire. Et je comprends plus du tout dans quel style de vie on vit.
Eh bien, en tout cas, vous, Bernard, ça vous a aidé à arrêter de fumer, c'est ce que je comprends.
Ah ben, écoutez, moi, ça m'a arrêté du jour au lendemain, je vous dis. Hein, un paquet de nuit par jour, j'ai le briquet à la poubelle.
Et ça, pour le coup, l'ANSES dit, c'est pas si anodin qu'on a voulu le dire, mais pour arrêter de fumer, ça reste recommandé dans un premier temps avant d'éventuellement arrêter. Là, il s'agit de préserver les enfants, notamment, qui sont, il faut bien le dire, la cible d'une industrie, l'industrie du tabac, qui, par tous les moyens, cherche à attirer les plus jeunes. Et c'est aussi dans ce sens-là que la Ligue contre le cancer préconise l'interdiction de la vape dans ces espaces publics. Merci Bernard, en tout cas, de votre appel de vapoteur en direct avec nous. Dans un instant, le face-à-face avec Alain Bauer, professeur émérite de criminologie et auteur de Trump, le pouvoir des mots, il répond aux questions de Marie Chantret sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Marie Chantret.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce lundi matin. Professeur émérite de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, fondateur du pôle Sécurité, Défense, Renseignement. Et vous êtes également l'auteur de deux ouvrages qui font plein écho à l'actualité encore ce matin. Trump, le pouvoir des mots, mais aussi Intrigues à l'ONU, tous les deux publiés aux éditions First. Le pouvoir des mots de Trump, justement, on va y revenir. Alors que la Maison-Blanche dort encore, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio en déplacement en Inde le dit, un accord avec l'Iran est toujours possible ce lundi. Peut-il dire autre chose alors que les marchés financiers par exemple vont ouvrir? C'est peut-être un indicateur, mais quand même l'impression à Lambauer de vivre un jour sans fin, entre des déclarations optimistes un jour, quasiment tempérées dans la demi-heure suivante par des déclarations beaucoup plus prudentes. Est-ce pour vous le signal d'une forme d'enlisement aussi de la politique du président américain ?
Non, c'est le signal de ce qu'est la diplomatie. Il a fallu des années pour obtenir l'accord dit de Vienne, JCPOA, qui a été ensuite dénoncé par le président Trump et qui nous ramène à peu près à avant. C'est le jour d'avant, c'est pas le jour d'après. et puis, on est dans une phase où les choses se sont beaucoup clarifiées. Alors, j'ai demandé à mes petits camarades américains qui travaillent la nuit, vous savez, c'est la formule, on voit le nombre de pizzas commandées pour savoir s'ils travaillent au Pentagone.
On voit effectivement, donc, c'est un indicateur.
J'ai la version à peu près complète des points. Donc, il y a 5 préalables définis par l'Iran et 14 points qui ont été négociés par un nombre invraisemblable d'intervenants, parce que si Donald Trump est parfois extrêmement péremptoire et extrêmement carré, parfois il est extrêmement délayé.
Oui.
Et donc il a fait un tweet immense pour dire avec qui il avait négocié. Il dit, j'ai négocié, je suis à la Maison-Blanche, dans mon bureau, et j'ai négocié avec... Alors, le président Mohamed bin Salman Al Saoud, je pensais qu'il était prince héritier, mais bon, après tout, pourquoi pas,
d'Arabie Saoudite. Il est président depuis quelques heures, pour Donald
Trump,
c'est ça.
Il vient d'être élu. Mohamed bin Zayed des Émirats Arabes Unis, l'émir Al Thani de Qatar, le premier ministre, le maréchal qu'il aime beaucoup Munir du Pakistan, le président de Turquie qui revient dans le jeu, le président d'Égypte, le roi de Jordanie, le roi du Bahreïn, concernant l'accord avec l'Iran. Donc désormais, ça n'est plus un accord entre les États-Unis et l'Iran. C'est un accord régional qui est exactement au cœur de la politique hémisphérique de Donald Trump.
Et ça, c'est l'un des derniers messages.
C'est le plus long, le plus développé, le plus carré. Ensuite, il dit, j'ai aussi appelé Bibi Netanyahou, qui, je cite, fera ce que je veux. Nous sommes prêts à rouvrir le détroit, un, et deux, à entamer la phase de négociation future sur la question du nucléaire, où là aussi, sur les 14 points qui restent, 5 préalables, 14 points, il y a des avancées considérables grâce à l'intervention de qui ? Eh bien, de la Russie d'un côté, de la Chine de l'autre.
Avec un mot de Donald Trump dans ce message, le temps joue en notre faveur. Les deux parties doivent prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Oui, d'accord, mais vraiment, le temps joue en faveur des Américains au vu de la situation intérieure.
Le temps joue en faveur de la diplomatie.
Ouais.
Le temps est revenu.
Pas même des Iraniens, de votre point de vue ?
Ils n'ont pas perdu, ils ont donc gagné. Ça, il n'y a pas de photo, je le dis. Vous savez, c'est comme la guerre de 3 jours en Ukraine, quand la Russie n'a pas gagné, elle a donc perdu. On peut se raconter tout ce qu'on veut. La durée du conflit, la modernisation du conflit, la capacité des Ukrainiens à résister, eh bien, vous avez une Ukraine à l'envers. Pardon de dire ça comme ça, parce que je ne pense pas que l'Iran soit un modèle de démocratie libérale résistant à une invasion d'une dictature.
Oui, comparaison n'est pas raison, effectivement.
Mais techniquement parlant, on est dans un processus qui est exactement le même. Le pays qui ne tombe pas en 3 jours comme ou en 12 jours comme prévu, et qui montre sa résilience avec une divergence d'opérations entre les Américains qui voulaient le désarmement de l'Iran et les Israéliens qui voulaient l'effondrement du régime, montre que le désarmement est compliqué et l'effondrement est quasiment inatteignable.
Donc un bilan, Alain Bauer, plus qu'en demi-teinte. On va revenir sur les points que vous soulignez. D'abord, j'aimerais revenir sur ces jours aux auditeurs, aux téléspectateurs qui ont peut-être coupé ce week-end et qui ont l'impression, je le disais, de vivre un jour sans fin. On s'est quitté vendredi avec cette annonce du fait que Donald Trump, qui normalement va jouer au golf le week-end, n'ira pas au golf, reste à Washington. Il devait aussi se rendre au mariage de son fils. Là non plus, il n'y est pas allé. Et évidemment, on a tous spéculé, je dis nous tous, ou en tout cas tous les observateurs, et même américains, de votre point de vue, qui le connaissait, en tout cas qui l'analysait depuis des années, il savait pertinemment que ces annulations allaient être parfaitement commentées. C'est une scénographie.
Je l'explique dans le livre que vous avez cité tout à l'heure, dans mon livre sur Trump et le pouvoir des mots, c'est que c'est pas seulement le pouvoir des mots, c'est une logique, une structuration de saturation de l'espace, de contrôle de l'espace, de maîtrise absolue du récit. Parce que le Trump que nous voyons, nous, de temps en temps, aux États-Unis, quand j'y suis assez souvent, il y est tout le temps. Non seulement il y est tout le temps dans son avion, sur sa golfette, dans son bureau, en train de faire une conférence de presse, de voir quelqu'un, en général de Fox News, mais pas seulement. Et quand il n'y est pas, les ennemis et les amis de Donald Trump commandent Donald Trump. 99% du temps d'antenne de l'information, c'est de l'infotainment, c'est-à-dire c'est pas de l'information, c'est du divertissement. Trump a parfaitement compris ce qu'était l'art de la téléréalité politique et même de la téléréalité militaire. Donc là, on a la téléréalité diplomatique. Parce qu'à la différence des négociations qui sont en général secrètes où on ne sait rien, on spécule mais dans le vide, Donald Trump alimente l'information, un tweet ici, une communication là, un entretien avec un ou une journaliste, un coup de téléphone d'un ou d'une de vos collègues à qui il répond parce que pourquoi pas.
Ce qu'il a encore fait d'ailleurs ce week-end, à coup de tweets parfois générés par l'intelligence artificielle. On a en tête celui généré samedi de ce destroyer iranien touché par un missile américain et ce sous-texte, adios. Que fallait-il comprendre? Prémunition? Rien. Vous dites rien.
Il anime le moment. Oui. Voilà. C'est la téléréalité. La téléréalité, tout est scripté, mais rien n'a de sens.
Dans le secret des négociations, vous faisiez référence à ce message qu'il a posté, citant les interlocuteurs, finalement, qu'il avait au bout du fil. On a une idée de la manière dont se déroulent les choses. Il est véritablement aux manettes, le président américain, dans tout ça?
Mais il n'y a personne d'autre.
Il n'y a personne d'autre.
Non, il y a une seule personne qui compte vraiment dans le système. C'est Madame Wiles, la secrétaire général de la Maison Blanche, le seul homme de la pièce, dit-il, et quand Trump dit ça, faut l'écouter, et Marco Rubio, parce que Marco Rubio, il a à la fois le poste de ministre des Affaires étrangères, mais aussi de conseiller à la sécurité nationale. Vous avez vu que l'ensemble de l'appareil sécuritaire américain avait été dilué avec des vraies et des fausses raisons, mais enfin, il a viré tout le monde d'une manière ou d'une autre, et aujourd'hui, la concentration du pouvoir est assez limitée autour de la secrétaire générale de la Maison Blanche et du ministre des Affaires étrangères. Il a sur le feu Cuba, il a sur le feu le Groenland. Pendant qu'on regarde la main droite, la main gauche continue à fonctionner.
On en parle beaucoup moins, en effet.
La réalité de l'activité de Donald Trump, c'est que ses provocations, ses digressions, ses divagations et ses obsessions nous cachent l'activité de cet extraordinaire joueur de poker menteur qui fait face à un joueur d'échecs menteurs iraniens et un joueur de go menteurs chinois avec des alliances et des restructurations. Et quand on regarde microscopiquement ce que fait Donald Trump, on comprend rien. On dit tout ça est incohérent, il est dingue, etc. Puis quand on remonte télescopiquement, tout d'un coup, tout ça prend du sens.
Ça n'a rien.
La reconstruction hémisphérique du monde entre les Chinois d'un côté, les Américains de l'autre, avec un obstacle majeur pour eux qui est l'Inde, pour les Chinois, un obstacle majeur pour les Américains qui est la reconquête totale, y compris du canal de Panama. Huit canaux, parce que c'est pas à Venise, c'est le cœur de la reconstruction américaine. Ils sont en train de maîtriser à la fois la sortie du pétrole, par ce qu'ils font à Hormuz en faisant le blocage du blocus.
Bien sûr.
Ou le blocage filtrant du blocus. Et surtout, l'accord militaire sur le détroit de Malacca, c'est 80% des exportations chinoises.
C'est gigantesque.
Le contrôle du monde se refait sous nos yeux. Mais comme on est obsédé par le petit côté de la lorgnette, on ne voit pas l'ensemble. Et c'est ça qui est très intéressant.
Donc pour vous, de votre point de vue, il n'y a rien de dingue dans l'attitude de Donald Trump.
Il y a des dingueries, mais ça n'est pas dingue.
Mais ça n'est pas dingue. Ça aussi, c'est intéressant à souligner. Des agitations permanentes, ça c'est ce que disent aussi certains commentateurs. Marco Rubio, je le disais aussi, qui disait qu'un accord était encore possible aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est possible?
Quand les Iraniens arrivent à Oman, pour la phase 27 des négociations, je ne sais plus comment dire, ils viennent avec 71 négociateurs. 71. C'est pas pour rire, hein. C'est pas trois négociateurs qui vont faire coucou, on est là, on fait une petite poignée de main.
On n'occupe pas les journalistes et les photographes.
71.
Ouais.
Donc, la délégation iranienne était là pour négocier tout. Les avoirs gelés, l'uranium. Il y a des sous-accords. Quand je dis 5 préalables, 14 points, sur les 5 préalables, 3 étaient acceptés sur 5, ce qui est pas mal, et sur les 14 points, 10 ou 12 sur 14. Alors, j'ai deux versions différentes, alors je vais pas me lancer dans savoir laquelle est la bonne, surtout que, comme je dis toujours, ça peut changer demain matin en fonction de l'humeur, du réveil, ou des incidents de la nuit, ou d'un Lego mal placé iranien qui agacerait.
Vous faites Donald référence Trump. À ces vidéos de propagande régulièrement publiées, en effet, par le régime de Téhéran.
Le péage est assez...
Sur les trois points d'accord, revenons précisément.
Sur les trois préalables.
Les trois préalables. On parle évidemment du détroit d'Hormuz, qui est l'un des gels
du détroit, mais maintien d'un contrôle omano-iranien.
Mais dans quelle mesure cela pourrait être une victoire pour le président américain et l'Amérique tout court?
Parce que le détroit aurait été rouvert et peut-être qu'une autorité internationale se substituerait à une autorité binationale.
Ça, c'est une possibilité.
Bah, comme le canal de Panama, comme le canal de Suez, ce que font les Turcs chez eux. Il y a un débat sur la réalité du droit international de la mer sur le détroit d'Hormuz est assez compliquée depuis que l'accord de Montego Bay a élargi le champ des eaux territoriales omanaises et iraniennes dans des conditions telles qu'on voit plus très bien où s'il existe des eaux internationales. Donc il y a plein de sujets qui peuvent revenir, et ce qui semblait être une sorte de conception habituelle de la vie, de droit coutumier, est en train de se transformer dans une sorte de convention d'un nouveau genre, où après tout, pourquoi ne payerait-il pas, puisque des centaines de milliards de dollars transitent par là, que l'Iran demande la reconstruction de ce qui a été détruit, en même temps qu'ils veulent débloquer 100 milliards de dollars qui sont gelés. Alors là, il dirait une première tranche à 25 milliards, est-ce que ça vous convient? Oui, mais ça dépend si. Et donc, on est dans cette phase où il n'y a pas de rupture de la négociation. Il y a une sorte de tricotage très fin d'un cadre de négociation qui va être très, très, très compliqué, mais qui devrait...
Ne pourra pas aboutir, si je vous entends bien, aujourd'hui.
On peut tomber d'accord sur le cadre de la négociation. Les préalables sont levés, le détroit est rouvert, ça c'est pas très compliqué, et on a 60 jours pour finaliser l'accord sur le nucléaire avec des Russes disant, écoutez, on va le prendre chez nous, mais à Bouchehr, la centrale qu'ils gèrent à l'intérieur de l'Iran, sous notre contrôle, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique qui revient. Là, on aura réglé peut-être une partie des soi-disant 440 kilos. Il reste 11 tonnes, hein, je précise quand même, entre 2 et 60%, il y a 11 autres tonnes.
Oui, parce qu'on se concentre sur ces 440 kilos, mais il y en a beaucoup d'autres. Juste une parenthèse, nos confrères de CBS News nous expliquent aussi que si ces négociations sont si je mets de gros guillemets, laborieuse, même si vous nous dites finalement que c'est l'art de la diplomatie, c'est aussi parce que le Mollah, Khamenei, est aussi bunkérisé, que si la communication est si lente, c'est qu'il ne souhaite pas être repéré, et donc tout se fait finalement, j'ai envie de dire, mano à mano, dans des tunnels. Est-ce que ça, c'est un argument qui retient votre attention, ou qui n'a que très peu d'incidence?
Il n'y a aucune incidence. Il y a eu un coup d'État en Iran qu'on n'a pas voulu voir, où avant il y avait trois pouvoirs avec une sorte de chef au sommet qui était l'ayatollah Khomeini. Mm-hmm. L'ayatollah Khamenei est lui-même une créature qui n'aurait jamais dû pouvoir succéder à l'ayatollah Khomeini puisqu'il ne correspondait à aucun des critères de la succession, mais qui était un compromis à l'intérieur de différentes factions iraniennes. Là, il n'y a plus qu'une seule faction qui tient le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir, qui s'appelle le commando Habib ou le cercle Habib, qui sont d'anciens gardiens de la révolution ayant fait la guerre en Irak dans la même unité et qui ont un accord entre eux. C'est un petit cercle de pouvoir qui a pris le contrôle du pays grâce à l'élimination, l'effet d'aubaine de l'élimination de toute la direction politique militaires iraniennes.
Et elles ont été nombreuses, ces éliminations,
Elles continuent d'ailleurs,
ouais, bien sûr.
Parce qu'on n'en parle pas, mais pendant ce temps-là, les Mossad, en général, arrivent à ce qu'ils... Eux, ils veulent termiter le régime. Ils disent, ouais, la poutre, elle est toujours là, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que nous termitons le régime, parce que tous les jours, il y a une élimination par-ci, une élimination par-là, que les Iraniens nous envoient des informations et que nous procédons à des frappes ciblées ou à des assassinats ciblés ou à des attentats ciblés. Il y a beaucoup de sujets en Iran. Et donc, la réalité, elle est très différente de l'image qu'on en fait. C'est toujours pas très visible, mais c'est très profond et c'est très permanent. Les Israéliens n'ont pas abandonné l'idée de l'effondrement du régime d'une manière ou d'une autre. Alors après, est-ce que c'est une reconstruction pour expliquer l'échec de la phase 1? Mais les Israéliens ont toujours dit c'est une phase 1, c'est pas la dernière phase.
Et
c'est,
on va revenir,
c'est le début de quelque chose.
On va revenir ensemble sur d'ailleurs ce coup de fil très important entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump hier. Juste revenir sur la question du nucléaire. Et si aussi Donald Trump était lâché par son propre camp. Les critiques dans le camp républicain hier soir se sont faites extrêmement nombreuses. Erreur désastreuse si le nucléaire ne faisait pas partie de cet accord préalable.
Le camp républicain de tous ceux qui se sont fait battre aux primaires ? Parce que je précise que le camp républicain, qui soi-disant est affaibli, Donald Trump est affaibli, il a éliminé tous ses ennemis, tous ses adversaires
là grâce encore, à la base. Ce sont des critiques qu'il balaye et que vous balayez aussi.
Moi, je partage une partie des critiques. Hein, c'est pas la question, mais la réalité de la puissance de l'opposition dans le camp républicain à Donald Trump se reflète par le résultat des primaires. Je ne comprends pas pourquoi on se base sur nos propres illusions pour croire qu'elles s'appliquent dans la réalité électorale. Les électeurs MAGA élimine tous les opposants à Donald Trump un par un, de primaire en primaire, de manière quasiment systématique et démocratique par ailleurs. Donc un jour ou l'autre, il va falloir accepter, un, il a été élu, deux, il a été confortablement élu, et trois, il tient encore son camp de manière suffisante pour éliminer ses opposants en interne. Il n'est pas majoritaire dans le pays, mais il est majoritaire chez lui.
Une question, et vous en parliez, de Benjamin Netanyahou, Israël, ce coup de fil. Et pour Israël, la fin du nucléaire, c'est un totem inamovible pour le premier ministre israélien. Là encore une fois, si cet accord devait aboutir, quelle serait la position, selon vous, d'Israël demain?
Alors, d'abord, comme le dit très bien Donald Trump, Bibi fait ce que je veux, c'est le petit nom qu'il donne au premier ministre Netanyahou. Deuxièmement, Israël peut pas faire seul, mais Israël peut faire beaucoup de choses de manière souterraine. Ils n'ont jamais arrêté de le faire en éliminant des scientifiques avant même la guerre, en éliminant des zones de centrifugeuses, en éliminant des transports, en identifiant des personnalités essentielles.
Donc Bibi ne fait pas totalement ce que Trump veut.
Non.
Oui.
Mais Trump laissera Bibi faire ce qu'il veut en disant je ne suis pas au courant.
Oui, mais un accord, est-ce que peut aujourd'hui satisfaire Benjamin Netanyahou?
Pas du tout.
Pas en l'état,
non.
En tout cas pas avec les points préalables évoqués.
Mais il fera avec.
Mais il fera avec. Vous évoquiez le Groenland, on évoque aussi Cuba.
Oui.
C'est la suite, si on élargit la focale,
oui.
C'est la suite aussi, c'est un plan très organisé par le président américain.
Totalement structuré, il a récupéré le canal de Panama au nez à la barbe des Chinois, qui d'ailleurs ne s'en sont toujours pas remis. Il a signé un accord pour contrôler la sortie de la mer de Chine avec l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, le détroit de Malacca, c'est 80% de l'export. Il est en train de gérer les conditions de sortie des pétroliers vers la Chine. Je rappelle que la Chine, la quasi-totalité des raffineries chinoises sont formatées pour le pétrole iranien et seulement pour ce pétrole-là à cause de sa qualité et de son faible indice. Donc ce sont des choses extrêmement importantes pour lui. On est aujourd'hui dans une phase où il est en train d'étrangler Cuba, y compris en menaçant d'arrêter, d'interpeller l'ancien président cubain qui contrôle encore tout, Raúl Castro. On est dans une phase où il est en train d'hémisphériquement de récupérer l'Amérique du Sud. Prochaine étape, Cuba. Étape suivante, le Brésil.
Ça, vous faites, ça fait partie d'un plan très organisé du président américain.
Il suffit de le regarder. On n'a pas besoin d'être un génie intergalactique. Il suffit de lire ce qu'ils disent et de voir ce qu'ils font.
Merci beaucoup, Alain Bauer, merci de votre regard ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, Le pouvoir des mots de Trump aux éditions First. Merci infiniment. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV.
Merci Marie Chantrey. Dans un instant, vous restez bien sur RMC. C'est Face à Canteloup avec Nicolas Canteloup. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
8h50, Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Alain Bauer était l'invité du Face à Face et il est encore avec nous. Rebonjour Alain Bauer. Alors qu'hier, un accord entre les États-Unis et l'Iran semblait imminent, il n'a pas eu lieu. C'est plutôt surprenant.
Pas du tout. C'était totalement prévisible, notamment sur la question de l'uranium. Donald Trump ne veut pas que l'uranium soit enrichi. Il veut que ce soit lui qui soit enrichi. Vous savez, le nucléaire, c'est compliqué. Je l'explique d'ailleurs dans mon nouveau livre qui sortira cet après-midi et qui s'intitule « Construire une bombe atomique pour les nuls ». Un livre que je déconseille aux enfants de moins de 12 ans.
Alors, donc vous pensez qu'on a eu droit à un énième revirement de Donald Trump ?
Pas du tout. Donald Trump ne change jamais d'avis puisqu'il n'a tout simplement pas d'avis. Et vous le sauriez si vous aviez lu, mon cher monsieur Béliard, le livre pour enfants que j'ai sorti avant-hier et qui s'intitule « I don't give a fuck », les mots de Donald Trump expliqués aux tout-petits. Hein, et qui contient, je le précise pour les parents, des coloriages. Donc c'est très accessible.
Alors on peut quand même espérer que les États-Unis contraignent l'Iran à signer un accord dans les prochains jours ?
Pas du tout. Les États-Unis ont à l'évidence perdu leur puissance et leur influence, que ce soit politique ou même d'ailleurs culturelle. D'ailleurs, Hollywood, aujourd'hui, a moins d'influence. J'en parlerai d'ailleurs dans mon prochain livre qui s'intitule « La décadence de l'Amérique » de Paul Newman à Laurent Neumann.
Eh bien, merci Alain Bauer. Comme toujours, c'était très clair.
Absolument pas.
Non.
Ah là, je vous ai bien eu. Hein, vous attendiez un petit pas du tout.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, pas du tout. En tout cas, tout le plaisir était pour moi. J'étais ravi, une fois de plus, de vous faire passer pour des cons.
Merci Alain Bauer. Et sans plus attendre, on retrouve Pascal Praud pour les titres de l'actualité.
Et oui, je chausse mes lunettes pour voir de plus près. Mais non, ce n'est pas Pauline, c'est Mathieu. Bonjour Mathieu, bonjour. Que dis-je ? Saint Mathieu, seul, un des seuls qui sert l'office un jour de Pentecôte pour les fidèles de la paroisse d'RMC. Allez Mathieu, je vous emmène, je vous promène à Cannes où la Palme d'Or a été décernée, vous le savez, au film Fjord du réalisateur roumain Christian Mungiu. Bon, bref, voilà ce qui se passe quand on laisse entrer des Roumains chez nous. Voilà, ils nous volent même nos récompenses au-delà de notre travail, récompenses aussi. Enfin, voilà, c'est déjà beau qu'on ait pu avoir la retransmission de la cérémonie de la Palme d'Or, parce que ces amis roms auraient très bien pu voler, on ne sait pas, tous les câbles chargés de cuivre. Mais la sécurité a bien fait son travail, à la bonne heure. Allez, on continue dans l'artistique. Le Pont Neuf a été emballé. Voilà, encore un délire, je suppose, d'un artiste bobo gauchiste subventionné. Mais plutôt que de notre magnifique Pont-Neuf, autant emballer quelque chose de moche, comme je ne sais pas, moi, le Centre Pompidou ou la Seine-Saint-Denis ou quelque chose d'inutile, je ne sais pas, les locaux de France Inter. Voilà. Allez, à vous, Mathieu.
Merci, Pascal. Alors, Gabriel Attal est avec nous. Bonjour, monsieur Attal. Vous avez donc officialisé votre candidature à la présidentielle de du village de l'Aveyron.
Oui, bonjour. Bonjour, j'ai toujours les yeux écarquillés quand je découvre des nouveaux départements comme l'Aveyron. J'ai toujours été attaché à la France des petits villages et plus que tout à l'Aveyron. Un département que je connais très bien, l'Aveyron. L'Aveyron avec un des plus beaux ponts de France, le pont de Tancarville, qui enjambe la vallée du Gard. Mais l'Aveyron, c'est aussi une gastronomie. le Munster, vous le savez. Les bêtises de Cambrai, la bouillabaisse.
Alors, oula, je suis pas sûr que c'est comme ça que vous allez vous faire taire les accusations de parisianisme.
Écoutez, monsieur Béliard, ouais. Je connais bien la France et ses régions. Ouais. J'étais à l'école alsacienne. J'habite rue de Bourgogne et j'ai travaillé avec Marisol Touraine. Je veux dire, on peut pas faire plus provincial que moi.
Franchement, c'est pas un peu ridicule de vouloir à tout prix se donner un côté France profonde.
Eh ben voilà. Dès qu'on est issu du monde agricole, hein, comme moi, ça y est, les élites et les journalistes vous caricaturent. Je vais quand même pas m'excuser, pardon, monsieur Béliard, d'avoir passé toute mon enfance dans une ferme. Pardon. Hein, je n'ai que des très bons souvenirs d'ailleurs. Tous les matins, je me revois à la tombée de la nuit. J'allais traire les cochons pour faire du fromage. Avant d'aller en culotte courte, Hugo Boss, grimper aux arbres pour cueillir les carottes et moissonner les pommes de terre qui venaient à peine d'éclore. Donc je le dis aux Français des territoires ruraux, personne ne saura mieux que moi vous représenter. Pardon, excusez-moi, je vous laisse parce que ça va être un moment magnifique. J'ai une vache qui est en salle de travail. Ça va être un moment génial. Elle va avoir une portée d'agneau.
Merci beaucoup, monsieur Attal. Plusieurs maires ont demandé l'annulation des concerts de Patrick Bruel prévus dans leur ville. Bonjour Éric Ciotti. En tant que maire de Nice, vous vous joignez à ces élus?
Oui, bonjour. Bonjour monsieur Béliard, je salue monsieur Boer que j'écoute avec passion toujours. Parfait, toujours parfait. Écoutez, comparé à pour revenir à votre question à d'autres villes, Nice, la situation est totalement différente. Chez nous, les jeunes femmes ont 78 ans. Donc, il y a très peu de risques qu'elles intéressent monsieur Bruel, et si jamais malgré Alzheimer, elles se souvenaient d'accusations contre Patrick Bruel, il y a peu de risque qu'elle manifeste pour perturber ses concerts.
Ah bon ?
Oui, la dernière fois que des Niçoises ont manifesté, c'était pour Julien Lepers, lorsqu'il a été évincé de questions pour un champion. Alors, c'est vrai que nous avons eu quelques protestations quand France 3 a arrêté Plus belle la vie, et quand les deux marmottes, la marque Les deux marmottes, ont changé la formule de la tisane jambe lourde, mais nous avons pu canaliser ces rebelles.
Alors, revenons au sujet. Vous ne demandez pas l'annulation des concerts ?
Ah si, bien sûr, je demande l'annulation de tous les concerts de Maître Gims, de Monsieur Faudel, de Yannick Noah, de Cheb Mami, d'Youssou N'Dour, de Khaled.
Ouais. Voilà. Je parlais des annulations de concerts de Patrick Bruel. Ah,
attendez, j'ai pas fini. J'exige également l'annulation immédiate et concomitante des concerts de Monsieur Bono, le chanteur de U2.
Ouais, attendez, il a été accusé d'agression sexuelle, Bono ?
Mais pire que ça, c'est le chanteur préféré de Christian Estrosi. Donc j'annule. Voilà. En revanche, bien sûr, je maintiens le concert du 10 juin à Nice de Franck Michael, oui, qui est le chanteur préféré d'Alain Marchal. Ah, voilà. J'ai pour vous deux places pour deux concerts, Monsieur Marchal, pour y aller avec Monsieur Truchot.
Eh ben merci Nicolas. Face à Cante Loup, qu'on retrouve dès demain en direct à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, c'est les GG. Quel est le programme, mon cher Alain? Bonjour.
Eh bien, dans les grandes. Bonjour à tous, on reviendra sur le match qui est lancé entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. À votre avis, qui est le mieux placé? Qui peut l'emporter? Le moratoire de 3 ans sur l'immigration, ça c'est la proposition de Gérald Darmanin. On reparlera aussi de l'intelligence artificielle et peut-être de la vie éternelle. C'est le thème d'un livre de Laurent Alexandre. Vivre 1000 ans, est-ce que ça vous tente? En fait, c'est pas 1000 ans physique, mais grâce à l'intelligence artificielle, c'est peut-être notre esprit qui pourra rester comme ça présent pendant 1000 ans. Et puis, bien évidemment, avec nos GG et surtout avec vous au 32-16, un mot sur le coup de chaleur qui s'est installé sur la France avec ces manifestations sportives qui ont été maintenues. Un mort, des malaises par dizaines. Est-ce bien raisonnable? 32-16 pour venir témoigner aux grandes gueules.